Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute.
Merci tellement d'être là, Alicia.
Merci, c'est tout un plaisir. C'est plutôt merci à toi, j'aurais pas à y croire.
Non!
Tu sais, quelqu'un que tu vois tout le temps à la télévision, puis que comme t'aurais jamais imaginé que les circonstances de la vie fassent qu'on se rencontre, puis qu'on soit assis l'un à l'autre en face d'un plexiglas.
Ouais.
C'est comme... C'est incroyable. I love your nail polish.
Ah, merci. T'es gentil. Shout out au manoir. Hein. Je suis pas capable de faire ça moi-même.
Ouais.
Et là, cette fois-là, c'est la gentille Maria qui les a faites. Elle est super bonne. Merci. Mais ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Merci pour les bons mots. On dirait que je me perçois pas du tout comme ça, mais t'es super fine.
Oh non, t'inquiète.
Et j'ai écouté quelques trucs sur toi et quelque chose que j'admire chez toi, c'est ta douceur. Très, très douce.
Oui, on n'a pas le choix.
Ouais? On n'a pas le choix?
Non, mais c'est comme ça. Ça dépend dans quelles circonstances. Mais c'est vrai quand même que les feedbacks qui me reviennent beaucoup, des podcasts que j'ai eu à faire ces derniers temps, c'est que tu as une voix qui permet de t'écouter. On ne sent pas le temps passer. C'est calme, c'est... Ouais, donc j'étais comme, ah, OK. Mais tu sais, quand c'est ta propre voix, puis dans mon cas, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas, personnellement.
T'aimes pas ta voix?
Pas vraiment.
Pourquoi?
En fait, c'est sûr, c'est mon outil de communication, mais en même temps, c'est comme une partie de ma pré-transition. Parce que la voix est déjà muée, la voix est déjà là. C'est sûr que j'essaie vraiment de parler comme doucement, le plus possible. Comme là, c'est vraiment, je parle normalement.
Ouais.
Mais j'essaie de parler doucement pour essayer de pas trop la rendre trop grave, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que le fait d'être mégenré ou d'être appelé, par exemple, monsieur au téléphone à chaque fois, c'est des micro-agressions que j'ai à vivre à tous les jours. Donc, j'ai, disons, pas une très bonne relation avec ma voix. Donc... espérant que c'est pas un petit moment, puis que, tu sais, je prends des démarches pour voir comment je peux essayer de remédier à ces situations. Mais, donc, disons que c'est plutôt le commentaire des autres personnes à l'extérieur, mais ils savent pas ce que tu sais, ta relation avec toi-même envers ta voix, parce que c'est quand même quelque chose que tu grandis avec au fil des ans, ça mue à l'adolescence, donc tu te rends pas compte. Donc après, maintenant, quand tu fais une transition, c'est comme souvent quand je dis j'aime pas, ils sont comme ah, c'est parce que peut-être tu t'entends toujours avec, tu sais, avant ta transition, fait que t'as peut-être ce blocage. Mais quand vraiment on me dit monsieur, c'est là où je suis comme aïe aïe,
ça fait plus mal.
Ah oui, c'est là où ça devient un peu plus dur. Donc
comment tu fais pour garder cette patience là? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... on finit un peu, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais qu'on... Puis je pense que ça part d'une bonne intention et je pense que je suis porteur de cette faute-là aussi, c'est-à-dire que on finit par... t'es souvent en train d'éduquer les gens autour de toi à ta réalité. Comment tu fais pour rester patiente? Est-ce que tu as l'impression que c'est ta responsabilité ou au contraire, c'est une responsabilité qui est partagée entre les gens qui doivent rechercher, faire leur recherche et aussi, ben, t'es accessible?
Je pourrais dire des deux parties. Parce qu'un travail, quand même, ça se fait des deux parties. C'est pas juste une seule partie, puis l'autre reste là. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que vraiment, la meilleure façon d'être un allié, c'est vraiment de s'éduquer. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet. Il y a maintenant plein d'informations dans les nouvelles, dans les séries, un peu partout. Donc, quand on cherche vraiment une information, on peut la trouver. C'est facile. Puis, comme je te donne un exemple, c'est Occupation Double, par exemple, tu comprends, c'est sûr que... Ou dans différentes sphères, dans les séries, dans les émissions, dans Netflix. Tu sais, il y a plusieurs... Ça commence à être vraiment comme dans le petit écran, plus... Pas tellement présent, mais on commence à faire des pas dans cette lancée.
Mais tu vois, là-dessus, moi, souvent, on me parlait justement... Il y a beaucoup de gens qui ont fait ah, bravo, OD, tu sais. Mais pour moi, tout le mérite revient à Kate. Tu sais, c'est elle qui est venue en audition. C'est elle qui, avec sa personnalité, avait tout ce qu'il fallait pour faire partie de l'émission. Et c'est elle aussi qui avait l'ouverture de partager sa réalité, tu sais.
Ouais. Quelque chose que j'admire énormément. Puis qui est comme... Waouh. C'est ça. En fait, c'est la représentation est importante. Les générations après nous, surtout les jeunes qui nous écoutent et qui sont en période de questionnement ou qui se cherchent, comme c'était mon cas avant, c'est de voir ça. C'est une bonne chose, je trouve, parce que ça permet vraiment de montrer que ok, ça existe, c'est présent. Pour peut-être beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas peut-être à placer des mots par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est un peu difficile à cet âge-là. Mm-hmm. J'en parle personnellement parce que j'avais pas un lexique, tu sais, un vocabulaire. Puis c'est sûr qu'avec le temps et les années, j'ai comprise. Mais
comment, à quel moment, excuse-moi de te couper, à quel moment t'as trouvé ce lexique-là ou à quel moment t'as trouvé les, tu sais, est-ce que justement on parle de représentation, mm-hmm. est-ce que il y a une représentation qui a fait en sorte que c'est comme ah c'est comme ça que je me sens?
Exactement, c'était ici à Montréal. C'est-à-dire, en ayant grandi en Afrique, c'est sûr que la représentation, la seule représentation de la communauté LGBTQ, c'était vraiment les homosexuels et c'était vraiment très mal vu.
Au Sénégal?
Au Sénégal, exactement. Mais j'ai grandi au Burundi aussi, puisque j'ai grandi de là jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais ça reste aussi que dans mon pays natal, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Donc,
c'est incroyable. C'est qu'il y a l'aspect peur aussi d'être soi-même, c'est ça qui est terrible.
Exactement. Donc c'est seulement ici à Montréal, puis en commençant à m'impliquer dans la communauté, que en rencontrant une personne, j'ai pu comprendre tout ce qui s'est passé, puis en lui posant quelques questions. Parce que c'est sûr, quand tu rencontres une personne pour la première fois, puis moi j'étais obsédé envers la je la regardais, puis pour moi c'était comme oh wow,
cette personne là
oui cette personne là et
qu'est-ce que t'aimais de cette personne?
Elle dégageait tellement de choses, c'était comme un charisme, une beauté, une élégance. La personne, c'est comme elle dégageait une aura, il y avait des vibrations, la personne se sentait bien. Et puis, waouh, la personne était juste comme...
incarnée.
Magnifique. Fait que quand je l'ai regardée, j'étais comme, oh my God. Mais il y avait quelque chose, je peux pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose qui disait que... tu sais, il fallait creuser un peu plus. Je peux pas le dire, je peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Puis, bon, c'est sûr, dans les contextes, c'est un événement LGBTQ. Puis, en rentrant, tu sais, en parlant, puis en vraiment en regardant, OK, c'est une femme trans. Puis là, j'étais comme, oh, OK, une femme trans. Puis j'étais comme, oui. Dans ce temps-là, j'avais pas eu le temps de rencontrer d'autres personnes trans dans la communauté noire. Ça, c'était avant ma transition. Donc, c'était pour la première fois que j'en rencontrais une. Puis j'étais comme, oh, wow, OK, donc elle a fait une transition. C'est possible dans le fond.
C'est quand même quelque chose, parce que t'as vécu ça. Parce que t'es arrivé ici à 17 ans?
17 ans, ouais.
Fait que ça s'est passé, t'étais...
J'avais 22, 23.
Incroyable quand même, ouais, quand tu y penses, là, tu sais, que la première fois que tu as rencontré quelqu'un comme toi, c'est à 22 ans.
22, 23, ouais.
Il y a quelque chose aussi de... est-ce que tu trouves ça grave?
Est-ce que là, on parle peut-être de... Est-ce que c'est grave? Ce que j'aime dire aux gens, c'est que vraiment les personnes trans ont toujours existé.
Ouais.
Fait que c'est sûr que quand tu dis ça, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas amenés à en rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc pour leur expliquer que ça a toujours, elles ont toujours été là, elles ont toujours existé, mais peut-être elles sont tellement marginalisées qu'on les voit peut-être pas trop dans la sphère médiatique et dans la vie de tous les jours. Puis la plupart des gens vont vraiment plus savoir. Ah, c'est mon ami gay, c'est mon ami gay, c'est mon ami lesbienne. Mais c'était dans ce temps-là très rare d'avoir... Ben, moi, j'étais très rare. J'étais impliqué dans le communautaire, mais j'en voyais pas trop tant que ça.
Et, rappelle-moi le nom de l'organisme.
Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel.
Ouais. Puis,
qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mais qui pour toi, a été un game changer dans ta vie.
Oui, exactement. Parce que... moi, j'étais comme, oh my God, je veux vraiment essayer de voir comment je peux m'impliquer, puis essayer de sensibiliser les gens. Puis je pense qu'avec tout ce que j'avais vécu en Afrique, de pas avoir de représentation, puis la seule représentation, c'était vraiment comme enfonçante, puisque c'était vraiment... on montrait les personnes dans les journaux, on les mettait en prison, on faisait des arrestations dans des coins, qui s'étaient réunis entre eux à l'extérieur de la ville. Et généralement, tu voyais que c'était soit le je peux dire le quartier ou le voisinage qui se suspectait. Parce que généralement, quand c'est dans des endroits un peu reculés, ils se connaissent généralement entre eux. Donc, quand ils voient une genre d'activité ou de soirée, c'est sûr que les gens sont curieux de savoir. Puis si, quand ils creusent un peu, ben ils voient que la plupart c'était des soirées où les hommes se retrouvaient et où généralement les gens se sentaient peut-être, tu sais, vous pouvez pas faire une transition, donc ils étaient juste habillés en femmes. Donc c'est vraiment comme si c'était des travestis. Donc là, c'est sûr que dans ce temps-là, on les prenait puis on les mettait dans les différents journaux. Donc moi, quand j'allais chercher par exemple, j'avais l'habitude souvent, pas en semaine, mais le week-end, de chercher le journal et le ramener à mon père, parce qu'il adore ça, les journaux. Et à chaque fois que je voyais ça, je voyais différents journaux, j'étais comme, my God. Tu sais, c'était des micros, je voyais ça, puis j'étais comme, oh my God. Ça aurait pu être moi, mais tu sais, c'est comme, faut que je fasse attention, faut pas que je fasse des rencontres ou que des regroupements. C'est une peur. On vit dans une peur parce qu'on se dit, tu sais, au fond de toi, tu sais ce que tu es, mais tu te dis, bon, parce que tu es un homme qui est attiré envers d'autres hommes et tu comprends pas, donc tu te dis, bon, ce que dit Google, c'est une personne gay, homosexuelle. Donc c'est comme, ah, bon, c'est ça que je suis attiré vers les hommes, mais on comprend pas la différence entre le genre et l'orientation sexuelle, où on fait vraiment une séparation de comme il y a le genre masculin, féminin. Puis il y a vraiment l'orientation sexuelle, hétérosexuelle, lesbienne. Donc c'est là où, ben c'est sûr, à 14 ans, 15 ans, tu connais pas tout ça.
Surtout parce que c'est relativement, en gros, il y a peut-être des gens en ce moment qui écoutent et que même pour eux, cette distinction-là est nouvelle, curieusement.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais comme je te disais tantôt, c'est plus le côté homosexuel qui, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose que beaucoup de gens me posent la question souvent, c'est de savoir pourquoi, par exemple, les lesbiennes, c'est pas tellement mal vu qu'autant les homosexuels. Parce qu'ils vont dire à deux femmes qui s'embrassent, c'est beau, tu sais, c'est trippant, ça peut être pour, tu sais, les gars aiment ça, tu sais, il y a tellement c'est moins, ça blesse moins. Pour les mœurs, en fait, des gens que vraiment deux hommes, par exemple. Fait qu'il y a toujours eu ce problème-là en Afrique. Puis, moi, j'ai grandi là, j'étais comme, OK, donc je suis homosexuel, je suis gay, donc...
Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est là, parce que c'est quotidien. Tu peux pas... à tous les jours, tu sais, comme... À chaque moment que t'es éveillé, et probablement même dans tes rêves, en fait, assurément, t'es toi, tu sais, qui fait en sorte que c'est sans cesse dans ta psyché, dans ton être, dans tes pensées, et de vivre dans une société où on te permet pas d'être toi-même ou t'as peur d'être toi-même. C'est on parle plus de microagression, là, c'est effrayant, c'est grave. Et comment te trouver cette force-là de faire, hey, attends, là, je dois trouver la lumière dans tout ça, je dois trouver un lieu où je peux me permettre d'être moi-même?
C'est là où je me sens vraiment privilégiée d'être ici. Je ne veux pas dire loin de tout ça, parce que c'est sûr que je continue à suivre l'actualité qui se passe en Afrique avec mes consoeurs, mes confrères qui sont encore là-bas. Mais je me considère vraiment chanceuse d'être ici, parce que parfois je m'assois puis je me demande comment j'aurais fait si j'aurais été là-bas encore de survivre à tout ça. C'est sûr que j'aurais trouvé une façon ou une autre de pouvoir, tu sais, immigrer à l'Occident, parce que je sais qu'en restant en Afrique, je n'aurais pas pu vivre ma vie en toute authenticité. C'est sûr que j'aurais peut-être même pas entamé une transition, parce que le système médical, ça existe pas. Donc, ils sont pas encore... tu sais, pour les personnes trans, par exemple, qui sont là-bas, quand je leur demande, mais comment vous arrivez peut-être parce que je sais qu'il n'y a pas de, tu sais, tout le corps médical, puis les endocrinologues, puis tout ça, ils se connaissent peut-être pas trop, ils sont pas familiers, et de toute façon, le code pénal, tu sais, criminalise ça. Donc, comment, généralement, ces personnes-là font pour avoir, tu sais, généralement, comme être bien dans leur corps, par exemple, d'un homme qui veut transitionner à une femme, par exemple, la plupart du temps, soit elles utilisent, par exemple, les pilules contraceptives pour les femmes. Donc, pour pas tomber enceinte, c'est ce qu'elles prennent, généralement, pour, comme oestrogène, par exemple, que moi, je vais prendre plus une injection, ça va être vraiment suivi par un endocrinologue. Là-bas, leur seule option, c'est vraiment prendre, par exemple, les pilules contraceptives. Que les femmes cis, c'est-à-dire les femmes nées à la naissance, ouais. Prennent. Donc, c'est une forme pour elles de, tu sais, de prendre, mais ça donne pas les mêmes résultats. Donc, d'entendre ça, c'est encore plus incroyable parce que je me dis, my God, il faut penser à ça. Oui, il y a sûrement aussi des produits naturels que les gens prennent, pour les gens qui veulent vraiment plus aller vers le côté plus naturel. Donc, ils vont utiliser des produits naturels, les plantes et tout pour avoir, mais c'est sûr que ça donne pas le même résultat. Peut-être, d'après ce que j'entends, c'est que ça donne pas le même résultat ou ils ont pas un suivi médical, donc ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Tu comprends?
C'est fou de qu'en 2021, il y a encore des lieux où on puisse pas être soi-même. C'est pour ça que je parle souvent de force, parce que c'est incroyable de dire à quelqu'un, encore aujourd'hui, t'es forte d'être toi-même, tu sais, mais que c'est vraiment parce qu'il y a des instances qui sont encore motivées par la peur.
Oui, et même ici, hein, c'est pas forcément que... je pense que même ici, au Canada, au moment que je te parle, où les droits des personnes sont protégés, au moins, ça reste que les gens ont vraiment... parfois peur de sortir en dehors du placard ou de faire le coming out parce qu'ils ont peut-être ils ont trop à perdre. Ils ont trop à perdre autour de eux, puis c'est sûr qu'on regarde le côté culturel de tout ce qui vient, c'est le background, c'est déjà très mal vu avec la religion déjà à la base, parce que ça prend une grande place dans la société. Donc même les gens, quand ils viennent ici, tu sais, ils viennent avec leur bagage, leur histoire, tu sais, leur religion et tout. Donc c'est sûr qu'ici, même s'ils sont au Canada, ils sont peut-être obligés de je vais pas dire faker, mais vraiment être dans une relation avec une femme, alors que forcément c'est pas ça qu'ils sont, parce qu'ils ont trop de choses à perdre, que ce soit leur travail, les amis, la famille. Donc généralement ces personnes-là, tellement elles voient qu'elles ont trop à perdre, donc elles préfèrent généralement vivre une vie entre guillemets hétéronormatif, alors que forcément à l'intérieur c'est pas, et puis c'est triste, hein.
Mais oui,
que moi j'ai choisi, je me suis dit, écoute, j'ai qu'une vie, on a qu'une vie à vivre, c'est pas un jeu vidéo où tu vas avoir une autre vie de plus, là, c'est pas, oh my God, game over, on reprend. Non, c'est vraiment,
oui, c'est là, c'est maintenant,
c'est là, c'est, puis j'ai eu vraiment à rencontrer des personnes de la communauté, mais vraiment plus des aînés qui, en parlant avec eux, ils m'ont dit comme quoi ils admirent. C'est ce commentaire généralement, plus en face, c'est pas dans les réseaux, mais plus face à face, je dis, ils admirent le courage, puis que dans leur temps, c'était impossible ou difficile d'entamer une transition. On aurait vu ça, tu sais, comme une maladie mentale, puis tu sais, tous les processus qu'ils ont nous expliqués qui font que ces personnes du troisième âge, c'est les personnes âgées, ouais, disent que dans leur temps c'était impossible. C'était vraiment pas tout le monde, et même ça c'est pour les personnes trans, mais même si on regarde les personnes, tu sais, homosexuelles et tout, c'est difficile. Donc les gens vivaient une vie, tu sais, un peu comme cachée, rangée, et c'est triste. Donc même ici au Canada, même s'il y a des, tu sais, il y a toutes les lois qui protègent et tout, ça reste que ça prend, c'est si on le veut vraiment, puis c'est un courage.
Ouais. J'imagine que depuis que tu as fait le choix de l'authenticité, j'imagine que t'es incapable de faire autrement. Tu sais, t'es rentré ici, puis j'ai fait, comment ça va? Ça va correct, c'est une journée difficile. Et c'est pas du chialage, c'est de l'authenticité.
Oui.
Et c'est fort, parce que c'est un langage, moi, c'est mon langage favori. C'est ce à quoi j'aspire le plus. Mm-hmm. Et j'imagine que pour toi, c'est rendu primordial. T'es incapable de faire autrement, j'imagine.
C'est sûr qu'il y a des journées où je suis où j'ai plus de force que d'autres. C'est comme tout le monde. Je suis pas, c'est surhumaine, donc je suis comme tout le monde. J'ai des émotions. Il y a des journées où ça va plus que d'autres, mais je pense que ça va beaucoup mieux depuis que j'ai vraiment décidé, comme tu l'as dit, de vivre ma vie en toute authenticité. Certes, ce n'est pas facile. Parce que c'est sûr que je suis amené à vivre plusieurs oppressions de différentes formes, mais ça reste que moi, dans ma personne, de vivre ma vie tous les jours, ça, c'est la plus belle chose, en fait. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner à soi-même.
Absolument. Et t'es arrivé ici seul?
Oui.
C'est ce qui est...
Seul, c'est sûr, avec l'aide quand même de mon père, mais... oui, quand même.
C'est T'as ça. Immigré ici en premier?
Oui, j'ai immigré ici en première avec lui.
Avec ton père?
Avec mon père, juste en vacances, en repérage pour voir un peu comment c'est le Canada. Parce que c'est sûr qu'on n'était jamais venu. Donc, on est venu ici à Pâques. Puis après, moi, j'ai décidé de rester un an. Puis après ça, je suis reparti. Puis je suis revenu en 2007. Et puis là, quand je suis revenu en 2007, c'est toujours moi-même. Donc voilà. Puis c'est mon père avec sa femme, ils sont toujours en Afrique. Voilà. Donc
est-ce que quand t'es partie toute seule, est-ce que tu sais, je veux dire, c'est quelque chose là qui. Est-ce que pour toi c'était parce que tu disais tantôt que tu te trouves chanceuse d'être ici. Mm-hmm. Est-ce qu'à ce moment-là pour toi c'était un sentiment entre gros guillemets d'arriver à la maison? De quitter, mais tu quittes quand même tes racines.
Oui.
Fait que c'est des mixed feelings, j'imagine?
C'est des mixed feelings, effectivement. Parce que c'est sûr que c'est sûr que tu sais que tu pars, mais que arrivé là-bas, tu auras certes moins de peur de vraiment être vrai parce que tu sais que, OK, c'est légalisé, c'est correct. J'ai eu le temps de faire vraiment comme des recherches et tout. Mais je dirais que c'est comme tu dis, on perd vraiment beaucoup de toute son enfance, toute son adolescence. C'est des souvenirs que certes, maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas repartir au Sénégal parce que, tu sais, il y aurait des représailles envers moi. Donc, tu sais, je peux pas. Donc, c'est comme des souvenirs que je sais pas si un jour, j'aurai peut-être la chance de repartir là où j'ai grandi, mes souvenirs, c'est le quartier où j'ai vécu, les différentes écoles que j'ai eu à fréquenter, ou même, je sais que par exemple, je ne peux pas repartir au Burundi, par exemple, là où sont la plupart de ma famille, c'est-à-dire le côté paternel, parce que oui, depuis quelques années, tu sais, le code pénal, ils l'ont changé, puis ils ont criminalisé vraiment tout ce qui est identité LGBTQ.
Non.
Donc, c'est sûr que moi, comme ça, c'est sûr que... Ouais, je dis comme ça. C'est sûr que...
Tel que tu es.
Tel que je suis, voilà. Je préfère mieux le dire comme ça. C'est dangereux, donc je préfère ne pas prendre de chance. Donc, généralement, avec les personnes avec qui j'ai gardé le contact, c'est vraiment juste par Internet. Mais oui, on a la nostalgie, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de réfugiés, par exemple, qui viennent ici, il y a le fait que c'est tout que tu laisses en arrière, derrière toi, pour vraiment recommencer tout à zéro dans un nouveau pays, un nouveau climat, une nouvelle culture, plein de choses qui sont nouveaux. Mais c'est vrai que moi, la chance est que je suis arrivé quand même assez jeune. Donc, tu sais, j'avais 18 ans moins 2 jours. J'attendais juste d'avoir majorité pour vraiment prendre mon appartement seul. Avant, je restais avec ma tante. Donc, c'est sûr qu'en arrivant jeune, ça m'a permis vraiment de connaître c'est quoi la vie d'adulte. Mais en même temps, j'avais hâte. J'avais, écoute, je pense que j'avais 13, 14, 15 ans. Moi, je savais une chose. J'étais comme, oh my God, j'ai hâte d'habiter seule. Parce que c'est sûr qu'il y a tellement de choses que tu peux pas faire parce que tu es sur le toit des parents. Puis on te le dit, ben, tant. Tu sais, la fameuse phrase qu'on dit à tout le monde, c'est genre, tant que tu es sur mon toit, tu respectes, tu sais...
mes règles.
Mes règles. Fait que quand tu auras, tu sais, ton appartement, ton chez-toi, tu pourras faire ce que tu veux. Donc moi, j'étais comme, oh my God. J'ai vraiment de comme... Ouais, donc oui, mais après, c'est sûr que là, 18 ans, il y a plein de responsabilités, c'est tout nouveau. Oui. C'est sûr que là, j'ai eu quand même son aide de 18 à 20 ans. Puis à partir de 20 ans, il était comme, OK, maintenant tu es un grand garçon, donc tu peux débrouiller tout seul. Donc là, j'avais eu le temps de vraiment faire mes repères et tout, puis je me suis envolé de moi-même. Et... je commençais à faire ma vie, à trouver un travail, essayer de socialiser. Donc, c'était tout nouveau. Mais j'étais super contente de me dire, je suis au Canada. Et je savais la chance que j'avais par rapport à toutes les personnes qui sont encore en Afrique. Et je me disais, oh wow. Puis je pense que je réalise plus encore ce privilège depuis ma transition. Je réalise, je pense, encore plus... tout ce que le Canada a pu m'apporter quand même.
Tu as utilisé le mot privilège, qui est quand même un mot qu'on entend de plus en plus, comment faut nommer nos privilèges, être conscient de nos privilèges aussi. Pour toi, c'est un privilège d'être ici?
C'est sûr, parce que le Canada m'a permis en fait d'être dans un endroit où, de par ma différence, je peux vivre librement.
Mais est-ce que tu as l'impression que privilège, c'est comme une coche de plus, alors que d'être toi-même, c'est censé être comme la norme, le droit humain, le minimum?
Aussi, je me dis que j'aurais pu naître dans une autre famille où peut-être cette famille n'aurait pas eu les moyens de me permettre d'arriver jusqu'à ici. Tu comprends? Parce que je veux dire, j'ai rien donné de plus à toutes ces personnes de la communauté LGBTQ qui sont encore en Afrique et qui n'ont pas les moyens ou les ressources nécessaires d'immigrer. Donc pour moi, je trouve quand même que j'ai ce privilège d'être ici. Tu comprends? J'ai rien donné. J'ai juste ce privilège. On n'a pas choisi de tomber dans telle famille ou telle famille. Tu comprends?
Je trouve ça extraordinaire que... malgré toutes les embûches que tu peux encore rencontrer dans ta vie aujourd'hui, malgré toutes les micro-agressions que tu peux vivre à tous les jours, t'as la force que tellement de personnes n'ont pas de nommer ton privilège. Encore une fois, j'ai l'impression que je suis comme, oh mon Dieu, mais quelle force!
Merci.
Mais c'est vrai, tu sais, c'est tellement... pas si difficile que ça, mettons, nommer son privilège. Puis j'ai l'impression que t'es pas la plus privilégiée et tu trouves quand même ton privilège dans tout ça et c'est vraiment extraordinaire.
J'essaie de voir toujours le côté positif de la chose. Je suis une personne quand même, disons, optimiste. De peut-être mon signe astrologique, peut-être.
C'est quoi ton signe astrologique?
Un Sagittaire.
Est-ce que explique-moi, les Sagittaires sont comment?
Oh. Alors, c'est un signe de feu. Nous sommes des personnes qui sont même optimistes de nature. C'est quelque chose qui m'est revenu comme souvent. Puis, en regardant vraiment, j'essaie toujours de trouver le côté positif de la chose. Nous sommes des personnes qui adorons l'aventure. On adore voyager. C'est sûr que moi, si je pouvais être en deux avions toutes les deux semaines, hôtesse de l'air, oh my God.
C'est vrai? Job.
Ah oui, j'aimerais ça, je capoterais.
Ce serait extraordinaire.
Oh my God, je me vois déjà avec l'uniforme, puis la valise, puis vraiment le salon, en train de marcher vraiment le catwalk sur toute l'aéroport.
Le petit foulard et hop, hop, hop.
Puis hop, hop, hop. Non, mais sérieux. Puis passer tout le monde, parce que tu sais, moi, je travaille à l'aéroport, puis passer mon badge. Ah, mon Dieu, parfois j'y pense, mais je suis comme, my gosh. Anyways. Mais,
est-ce que tu penses aller suivre ton cours, possiblement? C'est sûr que là, dans le contexte, là, on parlera pas de COVID nécessairement, là, mais
non,
là, c'est un peu complexe.
Mais, C'est sûr que même si j'arrive, tu sais, je dirais à tout le monde qui nous écoute que si vous avez un rêve, essayez de le poursuivre. N'abandonnez pas malgré certains des embûches qu'ils peuvent avoir. Je sais pas, je laisse vraiment l'avenir le dire, mais j'essaie vraiment de parfois comme tu sais manifester où je suis comme quand je manifeste, je regarde par exemple le les voyages, je me dis, OK, si je suis pas hôtesse de l'air, par exemple, moi, j'aimerais ça voyager. Que peu importe...
Non, en plus, je pense qu'il faut dire agent de bord, mais... Agent de bord, oui. C'est ça, agent de bord.
Ah, je savais pas.
Je pense.
Mais je suis pas sûr. Pour pas essayer de faire de...
Je suis pas certain, mais me semble. Ouais,
sûrement.
Mais je te souhaite que ça arrive.
Ou peut-être pas, mais si ça arrive pas, c'est sûr que je vais trouver tous les moyens possibles. Moi, quand j'ai un moment pour voyager, je m'en vais, je voyage. Donc, ça, c'est un autre privilège que j'ai, vraiment d'être sur un territoire qui, vraiment, avec le passeport, m'a permis vraiment de voyager un peu partout. Ça, c'est un autre privilège, vraiment, que je reconnais, parce que c'est sûr que, par rapport à mon passeport, peut-être du Burundi, à chaque fois que je voudrais peut-être voyager, il y aurait peut-être toujours des demandes de visa que peut-être avec le passeport canadien je n'ai pas. Donc ça m'a permis vraiment d'aller dans des pays que j'aurais jamais imaginé, comme par exemple j'ai été en Grèce. Toi, t'as été en Grèce?
Oui. Ouais.
Moi, j'étais en Grèce, c'est sûr que en 2019, mais c'est tellement beau. Ouais. J'aurais jamais imaginé que, comme tu sais, avec mon passeport burundais, ou pas avec mon passeport, j'aurais pu, mais j'aurais plus eu de difficultés. Il y a peut-être, il faudrait demander le visa, puis est-ce que, tu sais, pour quelle raison on s'en va là. Mais, un autre privilège que, là où j'ai réalisé vraiment le grand privilège, c'était pour moi en 2019, parce qu'il y a plein de choses qui s'est passé en 2019, c'était vraiment de changer mon nom, mon prénom et mon mention de genre au directeur de l'État civil du Québec.
Ça s'est passé en 2019?
Ça s'est passé en 2019.
Waouh!
C'est là où vraiment j'ai réalisé. C'est un bonheur. Tu sais, quand tu reçois la lettre avec, tu sais, le gros tampon, puis vraiment le directeur de l'État civil, puis on dit, tu sais, telle personne née à tel endroit, habitant à telle adresse, nous accordons, tu sais, le changement. Tu sais, pour moi, c'est des highlights de toute ma vie. Je pense pas qu'il y aura quelque chose qui va peut-être dépasser ça, parce que c'est vraiment enfin, pas officieusement, mais officiellement, tu sais, je pouvais vraiment réclamer, vraiment comme je le veux sur les papiers partout, que c'est Alicia, puis that's it. Tu
oui.
comprends? Fait que ça, c'est comme un autre privilège que vraiment, c'est sûr qu'en Afrique, ce serait pas possible. J'aurais dû, comme toutes mes consoeurs qui sont encore en Afrique, elles ne peuvent pas trouver de l'emploi, parce que c'est sûr que même si elles ont entamé une transition, avec les petits moyens de bord qu'ils ont autour de eux et elles, c'est sûr que pour chercher un emploi, ça va être difficile, mm-hmm. parce que t'as toujours l'ancien prénom puis l'ancien genre dans tes papiers, dans ta carte d'identité, dans ton passeport, tu comprends?
Ouais.
Ce qui peut créer beaucoup de problèmes, même pour voyager ou même ne serait-ce trouver un emploi ou aller à la banque. Donc, vraiment de réaliser que ici, tu sais, c'est changé, c'est Alicia, c'est F, tu sais, c'est incroyable. Je regarde, je me dis, en Afrique, encore une fois, ça aurait pas été possible. Donc, c'est là encore où ça clignote, puis je réalise. Quand j'ai déposé ma demande, puis il fallait que j'ai un répondant, donc il faut vraiment amener quelqu'un avec toi qui démontre comme quoi tu t'appelles Alicia et que tu te présentes comme ça dans la société tous les jours, et que tu utilises ce prénom pendant un an. Je sais pas si maintenant, en 2021, c'est toujours d'actualité, mais en 2019, on le demandait. Donc, il faut amener un répondant avec toi. Et là, j'avais comme tellement de personnes, j'étais comme, oh my god, à qui je vais demander, parce que ça va faire, tu sais, des chicanes avec d'autres personnes. Pourquoi tu m'as pas pris? Pourquoi tu m'as pas amené? Mais moi, je voulais. Donc, j'étais comme, je suis allée une journée de semaine, très tôt le matin, je sais que tout le monde travaille, je me suis dit, bon, la personne qui est libre pour cette journée off, elle va répondre. J'ai envoyé plein de messages, tout le monde était occupé, une personne était libre, puis j'étais comme, ok, veux-tu venir avec moi? Elle était comme, ben oui, je viens demain. J'étais comme, ok, yes.
Fait que, wow.
On est parti au directeur de l'état civil, c'est proche du métro Place des Arts, puis vraiment, la personne signe, on prend tes pièces d'identité, puis on dit que, OK, je déclare solennellement que Alicia, ici, utilise ce prénom depuis au moins un an. Fait que là, après, je pense, 4 mois, il faut vraiment 4 mois à peu près de traitement, puis il t'annonce une, il t'en donne une lettre comme quoi... on a accepté la demande. Puis le truc que j'aime vraiment pas, puis que j'espère un jour qu'ils vont changer, il y a cet espace de 30 jours qui donne en fait aux gens s'opposer. Voilà, je cherchais le mot dans le vocabulaire. Donc ils ont 30 jours. Ben oui, ça m'a enragé. On te dit bien, il y a 30 jours. Il donne 30 jours aux gens s'ils veulent s'opposer au changement de prénom.
Donc, n'importe qui peut venir.
Exactement.
Non.
Exactement. Et dans ce temps-là, moi, j'étais comme, aïe, aïe. Tu sais, il y a toujours des gens qui nous aiment pas. On appelle les haters. Puis, c'est sûr que moi, j'étais comme, je l'avais annoncé sur les réseaux, puis j'étais comme, my gosh, genre, pourquoi? Tu sais, c'est comme, j'espère qu'il y a personne qui va calculer le temps, puis qui va savoir combien de temps pour que, tu sais, la personne vienne, puis s'oppose. Je me faisais des scénarios dans la tête et je comptais les jours. Puis après 30 jours, on t'envoie vraiment une autre lettre pour te dire, voilà, on t'envoie vraiment le nouveau certificat, parce qu'on prend ton ancien certificat de naissance. Ils le prennent, fait qu'ils t'en donnent un nouveau du Québec. Donc, tu es vraiment enregistré dans le registre du Québec, vraiment avec le nouveau prénom et mention de sexe. Puis, ils gardent vraiment l'ancien, l'original du certificat de naissance, celui que tu avais avant. Moi, j'avais ramené celui du Burundi. Et une chance que je l'avais.
Parce que oui.
Si je l'avais pas ramené avec moi depuis, tu sais, avec moi à Dakar, puis à Dakar en prenant tout, parce que je savais que j'aurais peut-être besoin de prouver, ça c'est une forme de prouver, et j'en aurais besoin pour la citoyenneté. Donc j'étais comme, oh my god, si j'aurais pas eu ça, je pourrais même pas trouver une façon de, oui, on pourrait plus en demander à quelqu'un au Burundi de le faire, mais.
C'est compliqué. Ah,
c'est compliqué, puis il faudrait peut-être parfois te déplacer par toi-même, puis c'est sûr que c'est compliqué aussi dans ce cas-là. Donc, j'étais comme, my gosh, j'étais super contente. Fait que là, après avoir donné, ils te donnent un nouveau certificat. Donc, après ce 30 jours, au cas où, si quelqu'un s'oppose et tout, que je trouve vraiment littéralement inutile, après là, t'as le nouveau certificat, puis c'est à toi maintenant d'aller à chaque place. Donc, à la RAMQ, voilà. Et donc, pour les personnes peut-être qui sont nées ici, ou les personnes qui sont venues à très bas âge, puis qui ont grandi ici, ils connaîtront pas ces mêmes réalités ou ces mêmes difficultés qu'une personne migrante qui vient de très loin dans son pays d'origine.
Mais oui.
Donc, ça, c'est un autre privilège quand je l'ai eu, puis que dans la vie de tous les jours, c'est des micro-agressions, parce que dans tout ce qui est médical, les rendez-vous, le gouvernement, tu sais, t'es assise là, dans une pièce, puis on dit, monsieur tel, s'il vous plaît. Donc, ouf, et là, tu te lèves, puis t'as comme tout le monde, puis on vient de dire monsieur. Fait tu prends ton courage, tu soulèves la tête comme ça, puis tu marches fierce, puis t'es comme... Voilà pourquoi je pense que toute souffrance à un moment, tu sais, quand je l'ai eu, j'ai pleuré, j'ai oui. braillé, je pense, pendant 2-3 jours. J'ai appelé mon ami, j'ai crié, j'ai pleuré. Ça m'a pris... Moi, je suis une personne émotionnelle. Donc, il fallait que tout sorte. Avec tout l'estrogène qui était en moi, il fallait que tout sorte. C'était pour moi... Oh my God, c'est comme plus jamais de monsieur. C'est que c'est madame. Fait que... Et là, maintenant, à partir de... Parce qu'avant, il fallait vraiment être citoyen canadien. Il fallait attendre d'être citoyen canadien pour faire une demande de changement. Non, tu dois être canadien. Donc, tu dois faire les 3 ans, les 1095 jours qui sont demandés sur le territoire ici. Si tu sors à l'extérieur du pays pour des vacances, ou peu importe ta raison, on ne les compte pas. Et après ces 3 ans, tu passes un test de citoyenneté, puis après, tu as la cérémonie, puis après, on te donne le papier, puis après, tu as le passeport 2 jours après. Donc, tu sais, tout ce processus-là, maintenant, récemment, les gens qui vivent au Québec depuis 1 an, juste le fait de vivre au Québec pendant 1 an, tu peux demander ton changement de prénom et ton mention de genre sans avoir attend d'être citoyen. Fait que c'est un truc qui est incroyable que, tu sais, moi, en 2000, tu sais, quand j'ai été citoyenne en 2016, j'ai pas pu, tu sais, j'ai dû attendre d'être citoyenne alors que j'aurais pu même demander, tu sais, avant, juste en étant résidente permanente, puis ne pas avoir à vivre toutes ces années, à être mégenrée dans tout ce qui est, tu sais, légal.
Ouais.
C'est tough. C'est vraiment tough. C'est vraiment difficile.
Je peux pas m'imaginer l'euphorie que t'as dû vivre en sortant.
L'euphorie de chant. Ouais.
Tu m'en parles, c'est émouvant. C'est comme, oh mon Dieu, je peux pas. J'imagine que t'as la date. Faut fêter. Là.
Ah, ben oui.
Tu sais, faut ben faut oui, fêter à chaque date. Année. C'est la journée année. Alicia, là.
C'est Alicia Day.
Yeah.
On peut faire comme Jean Britney qui a sa journée à elle à Britney Spears. Oui. Ce serait Alicia Day.
Let's go.
Oh my God. Non, mais sérieux, je pense que je me rappellerai toujours. C'était en été. Je pense, là, j'ai la date parfaite dans mon téléphone. Ouais. Mais je sais que c'est vers la troisième semaine du mois de juin.
Wow.
Juste
c'est la semaine
avant
au complet.
Saint-Jean.
On fait la semaine au complet.
Je pense que. Tu comprends juste pas, j'ai lu, j'ai relu, j'ai pleuré, j'ai relu, j'ai fermé, j'ai déposé de côté. Je me suis assise. 3 heures plus tard, je suis repartie encore, j'ai rouvert le lendemain. Chaque fois, j'allais réouvrir la lettre et la relire juste pour vraiment comprendre que oui, c'est arrivé, c'est possible. C'est incroyable. C'est... Wow. C'est pour ça que je dis que ça, c'est vraiment un des highlights que, vraiment, en étant ici, j'ai eu vraiment ce privilège-là de changer mon nom. Sinon, voilà. Donc, tout ça, des petits combats de la vie qu'on a amené en tant que personne migrante qui vient vraiment de très loin, que quand on reçoit ça, c'est...
Quelle histoire extraordinaire! Ouais. C'est extraordinaire! Ouais. Mais tellement d'embûches, encore une fois, je radote, mais j'en reviens pas que... Puis je comprends ce que tu veux dire, là, je t'ostine pas, mais je te trouve forte de dire que c'est un privilège. Alors que, à ce moment-là, pour toi, c'était juste, ah, on dit que je suis moi. C'est la chose la plus... l'étape 1 de tout. Et qu'il y a autant d'embûches pour te faire dire « Hey, t'es toi? Mm-hmm. » Et que c'est quelqu'un d'autre qui doit te dire « Oui, tu peux être toi. Mm-hmm. » C'est vraiment... j'ai des frissons. C'est vraiment intense.
Ouais. Puis là, c'est sûr que j'ai comme... Tu sais, c'est comme en tant que... Je vais pas dire figure ou les gens me disent généralement que je suis une figure ou un modèle pour la communauté. Je trouve que c'est comme une grande pression qu'on met. Mais j'ai par exemple pas adopté, mais c'est une façon, un terme qu'on utilise généralement plus dans la communauté. C'est en tant que personne âgée, on a des âgés, c'est plus avancé. En tant que personne, c'est un peu loin dans sa transition. Rencontrer par exemple une personne, tu sais, qui a 20 ans, qui venait d'arriver, qui a eu le même parcours, qui a quitté le pays en Afrique pour venir jusqu'ici, que j'ai décidé de prendre sur mon aile et vraiment, vraiment essayer de la coacher, de la dire un peu quelles sont les directions, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Alors que moi, je n'avais pas, tu sais, quelqu'un qui me tenait la main et qui me disait « tu dois aller là, tu dois aller là, tu dois aller là ». Donc, toutes les recherches, tous les endroits que je suis allé, tu sais, toutes les rencontres, tout ce que j'ai dû à faire, je le dois à moi toute seule. Il n'y a personne qui est venu me donner de l'information puis de me dire « ok, va là, va là, va là ». J'ai dû aller chercher l'information en m'impliquant dans le communautaire. Il y a plein d'organismes qui sont là, qui te donnent les outils. Mais tu sais, en 2015, c'est pas autant... c'était pas autant que peut-être maintenant, 2021.
T'es en train d'être la personne que t'aurais aimé avoir, en fait.
Oui, exactement. Et là, je réalise, par exemple, avec... En tant que dans la communauté trans, généralement, on a cette rôle de où les gens nous voient comme mother, comme maman, ou quand tu as des gens plus jeunes dans la vingtaine par exemple, ou 18 ans qui se cherchent encore, qui ont plein de questions, ils vont généralement aller voir les gens qui sont comme un peu plus loin pour avoir juste des informations, des recommandations. Donc moi, j'ai eu à apprendre, je peux dire, sous mon aile, ma fille, entre guillemets, qui s'appelle Maria, que j'éduque et que je lui dis, OK, voici les étapes, il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, pour changer ton nom, c'est comme ça, c'est ci, c'est ça. Donc, c'est pour moi, je lègue en fait une connaissance envers une personne plus jeune, puis de la coacher, de l'amener vraiment sur le chemin qu'elle désire, puis vraiment de la prendre par la main, puis de lui dire, OK, tu vas sauver tellement de temps en faisant ça, 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 puis moi, je vais t'encourager, je vais te supporter, je vais t'aider. Donc, c'est incroyable. Puis parfois, elle était comme, oh my God, je suis tellement contente d'avoir rencontré. Puis moi, parfois, je m'assois, je suis comme, j'ai pas eu quelqu'un comme moi, man. Mais voilà pourquoi je suis très contente à chaque fois de toutes les petites victoires que je réalise, parce que je ne le dois qu'à moi.
C'est extraordinaire. Puis absolument, puis c'est important aussi que je trouve ça cool que tu sois capable de le nommer. Mm-hmm. C'est pas... des fois, ça finit par... Là, c'est pas de... Ah, c'est important de faire... Hey, ça me revient. Ça, c'est... It's on me. Mm-hmm. Puis en plus que c'est un combat pour être toi, mm-hmm. et que c'est toi qui l'as mené par toi-même, puis ce qui est extraordinaire... J'adore le terme mother, mère, mm-hmm. parce que après ça, c'est ça, une mère, ça te permet d'être toi, ça te met au monde. Mm-hmm. Et c'est un peu ce que tu fais avec Maria. Mm-hmm. Et c'est ce que t'as pas nécessairement eu ici. C'est mm-hmm. quelqu'un qui t'accompagne dans ce cheminement-là pour être mm-hmm. toi. Je trouve que l'analogie est bonne. Le mot est magnifique. Mm-hmm. Et ça fonctionne pour moi, là.
Merci.
C'est cool.
C'est surtout que, tu sais, puisqu'elle connaît quand même ma vie, j'essaie de l'expliquer, j'essaie de connaître aussi son background, d'où elle vient. Et, tu sais, comme elle a grandi en Afrique de l'Ouest aussi, puisqu'elle vraiment elle est musulmane, elle a vraiment plus, tu sais, d'autres réalités et barrières que je comprends, parce que moi, j'ai vécu au Sénégal. C'est là où je remarque que, comme... Pour ces gens-là aussi, ça demande beaucoup de force, parce que tu laisses tout en arrière. Je me suis reconnue en fait en elle vraiment à la vingtaine, et je me suis dit, je vais te donner vraiment tout le soutien et comment t'intégrer, par où passer. Et c'est nice. C'est tous des trucs comme ça qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut être présente, il faut ouais. Donc si on peut redonner à la communauté, je le donne vraiment à large échelle, tu sais, dans mes conférences, ou vraiment dans mes podcasts, ou partout où je me déplace. Mais ça permet, je pense, avec les feedbacks que j'ai, de voir que, ah, ils ont appris telle affaire, ils ont appris telle chose, ils savaient pas que c'était comme ça. Puis voilà pourquoi, tu sais, les personnes comme toi qui donnent vraiment une certaine place afin qu'on puisse faire entendre notre voix et nos réalités, c'est très important.
Mais justement, tu as des conférences. Est-ce que t'aimes faire ça?
Oui, c'est sûr que c'est toujours à propos de la transidentité, on s'entend. Mais pour moi, je me dis tout le temps à chaque fois que j'ai toujours des personnes que je peux aller éduquer ou sensibiliser. Je vais pas dire que je vais le faire éternellement, certes, mais tant que j'ai encore la force, puis vraiment que je suis capable de le faire, tu sais, je vais le faire. Fait que, ouais.
Mais comment t'as commencé?
Waouh! Alors, moi, j'ai commencé, c'est grâce à un ami de la communauté qui avait normalement une présentation à faire au Nouveau-Brunswick. Et à ce moment-là, la personne était comme, OK, waouh, il faudrait aller parler. Il cherche une personne pour aller parler des réalités de la communauté noire, LGBTQ, mais vraiment, ça c'était au Nouveau-Brunswick, c'était à Moncton. Donc là, parce qu'il y avait peut-être, il y avait pas une grande communauté noire, puis je suis sûr que, tu sais, entre eux, ils voulaient vraiment avoir quelqu'un qui vient vraiment parler et expliquer. Et dans ce temps-là, j'étais vraiment impliqué dans la dans l'organisme. Puis c'est de là, tu sais, quand ils ont contacté, on m'a mis en relation, puis on a essayé de faire un PowerPoint, tu sais, travailler là-dessus, puis j'en étais comme, je sais que t'es capable, tu peux le faire. Donc, l'organisme vraiment, Moi, je suis tellement pas bonne avec les noms. Mais l'organisme vraiment de Nouveau-Brunswick vraiment m'a contacté, puis ils ont comme payé l'avion, la journée, je pense, à l'hôtel, puis pour venir vraiment expliquer dans une salle. Puis j'avais eu, je pense, dernière journée avant de prendre mon vol pour en aller là, avoir la chance de faire une entrevue radio live avec Radio-Canada, CBC, Radio-Canada de Moncton.
Ouais.
Donc...
T'étais-tu nerveux?
Ah, mais mon Dieu, c'était la première fois que je passais à la radio en live. Non, mais tu sais, c'est sûr que là, tu sais, c'est comme... C'est après enregistré, puis après on peut faire l'editing, on peut couper, on peut prendre certaines parties. Mais là, c'était comme, OK, c'est live, sans radio. Il y a tout le Nouveau-Brunswick qui m'écoute. Comme j'avais peur de peut-être avoir des questions parce que tu sais pas, on te dit un peu rapidement par courriel ce qu'on va peut-être aborder, mais on peut avoir une question de l'auditoire ou vraiment une question de la personne qui nous interview. Et j'étais comme, my God, j'avais jamais fait ça. Puis il n'y a pas de cours vraiment pour
mais
faire.
Non.
J'ai quitté de là. Et ce qui était très intéressant, c'est que en donnant ce côté live, ça a permis aux gens, c'était à 9h, je pense à 8h30, 9h. Puis moi, je donnais ma présentation à midi, midi 30.
Non, la même journée.
Midi 30 à 14h30.
Oh mon Dieu.
Et il y a eu des gens qui, en m'écoutant vraiment Radio-Canada, là, tu sais, sont venus, ont fait le déplacement, puis sont venus assister, en fait.
Wow!
Fait que c'était juste comme, oh my God, c'est comme ça. C'est incroyable.
Je fais déplacer les foules!
Tu sais, c'est comme... Fait que, ouais, j'étais comme, wow. Je pense que c'est là où ça a commencé. Puis, je pense que quand tu fais... C'est tout relié dans le truc communautaire. Tu sais, les organismes sont tous reliés, ils gardent tous contact. Donc, je pense que quand ils voient quelqu'une vraiment aller parler au Nouveau-Brunswick, quelqu'un qui habite à Montréal, c'est là où vraiment, après, je pense que Ottawa, tu sais, a entendu parler de moi, puis ils m'ont contacté. J'ai eu le temps de rencontrer quelqu'un. Il y a les conférences qui se donnent une fois par année. Donc, en rencontrant quelqu'un, tu sais, là, ils ont gardé contact, puis t'es comme, ah, j'aimerais ça vraiment que tu viennes à tel panel qu'on va organiser. On aimerait vraiment que tu apportes vraiment l'aspect des réalités des personnes migrantes, LGBTQ. Donc, je suis parti là. Puis après, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui se trouve là ou quelqu'un qui a assisté a vraiment aimé ta présentation, puis il va essayer de prendre contact. Fait que de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Donc, c'est vraiment un genre de réseautage où quand les gens ont aimé, puis ça adonne que c'est à ce sujet qui est abordé, ben à ce moment-là, ils font contact avec moi. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que tout a commencé. Ouais.
Incroyable.
Ouais.
Incroyable. Est-ce que pour toi, c'est parler un peu aussi de... Parce que c'est quand même intime.
Mm-hmm.
Est-ce que tu réussis à mettre une ligne entre ton jardin secret et ce que tu souhaites aborder dans tes conférences, dans les entrevues? Parce que c'est quand même privé un peu.
Oui, mais... Je connais toujours, j'ai ma limite.
Ouais.
Je sais toujours la ligne à ne pas dépasser. Et c'est sûr qu'on est là, par exemple, on est là pour éduquer, pour sensibiliser. Donc, c'est sûr qu'on a, généralement, dans ces genres de panels, on a des questions, on a des sujets qu'on va aborder, on a déjà fait nos points, mais c'est sûr qu'à un moment, il y a peut-être des questions qui adonnent. Dans certains panels, ils vont généralement plus nous dire, OK, quelles sont les questions, par exemple, à ne pas poser.
Mm-hmm.
Donc, vraiment, pour que les modérateurs ou les animateurs, peut-être qu'ils sont peut-être pas trop sensibilisés sur le sujet, savent déjà. Moi, généralement, quand on me pose une question, il y a des personnes qui sont à l'aise d'en parler. Moi, je me dis, je parle pour ma personne, puis
voilà.
Pour les personnes qui sont de mon côté, de mon point de vue, pour dire, ah, par exemple, ça, c'est une question, généralement, qu'on ne devrait pas poser.
Voilà.
Puis, la personne sait, elle est éduquée sur le sujet, puis on esquive, puis on passe à autre chose. Donc, je pense, j'ai une façon... Je pourrais dire de dire à la personne qui est mon interlocuteur, celui qui est en face de moi, sans vraiment que la personne soit blessée, mais vraiment comprenne que c'est à titre pédagogique. Parce que sûr, si à un moment donné, tu me poses une question que je ne souhaite pas répondre, je te regarde dans les yeux, puis je vais te dire, ah, généralement, il y a des gens qui aiment répondre, mais je préfère ne pas répondre, ou c'est une question où certaines personnes ne préfèrent pas répondre, ou il faudrait laisser la personne entamer le sujet. Donc, et là, la personne comprend. Donc, tout, comme on dit, le ton fait la chanson. Donc, il faut juste trouver une façon subtile de te le dire sans froisser. Parce qu'il y a des gens qui sont curieux et qui veulent juste apprendre et qui ne savent pas que certaines questions ne pas poser.
Ouais.
Mais c'est juste, il y a une manière, une subtilité de dire la chose en disant comme quoi, ah, cette question ne se pose pas.
Encore
par exemple, le dead name qu'on appelle le nom qui était attribué à la naissance, ça c'est une question généralement quand les gens me demandent ah mais c'est quoi ton prénom avant, ça c'est un exemple que je dis ah c'est une question généralement qu'on pose pas, c'est voilà. Alicia, ça a été changé et tu me prends comme Alicia. Et je pense que même dans la vie de tous les jours, j'essaie de ne même pas donner, même si les gens c'est sûr qu'ils voient oui, ils l'entendent, oui, sans doute. Ou peut-être les gens n'ont jamais été amenés à croiser une personne trans et à vraiment être en croise avec moi. Généralement, je ne veux même pas leur donner ce... Si on est là pour un cadre bien précis, je vais vraiment être là pour ce cadre-là, puis ne pas donner même la chance à d'autres personnes de... Tu sais, on est dans un party, je vais pas rester là, puis dans une soirée, puis vraiment répondre à tes questions. Je veux juste te montrer qu'on est là pour passer un bon moment.
Voilà.
Mais je suis pas, c'est pas le cadre ni l'endroit, que ce soit aussi dans le, au travail aussi, c'est, je donne pas la chance. C'est comme, ok, c'est Alicia, puis vous prenez ça comme ça, puis c'est tout, puis ça. Puis même les ma chance à moi, c'est que mes papiers, sont changés, mais voilà. Je n'ose imaginer avant, ou même en ayant commencé la transition, puis en essayant de trouver un emploi, je devais envoyer sur le CV mon dead name. C'est mon nom parce que c'est sûr que ta pièce d'identité, tu sais, à un moment, tu... Donc, ouais. Généralement, les gens, ils savent pas trop quand est-ce que je le dis, est-ce que je dois le dire à la personne qui se trouve en face de moi, en entrevue, ou... Tu sais, donc, c'est sûr que c'est tout ce qui est légal. Donc, il faut, à un moment donné, tu sais, donner toutes tes informations. Donc, tu te fais un peu, c'est toujours des petites micro-agressions que tu fais envers toi-même parce que tu donnes ça, puis tu, après un moment, tu dois expliquer que, ah, j'aimerais être appelé comme ça, mais mon nom est tel. Et à certaines places ou certaines entreprises où peut-être maintenant ça va un peu mieux, mais avant, ils peuvent forcément pas parce que c'est le nom qui est là, ça doit être marqué ainsi. Donc c'est sûr que là, maintenant, il y a un peu plus de souplesse. Mmh. Mais avant. Donc c'est toutes des choses comme ça que. C'est une victoire. C'est...
Encore une fois, j'admire ta patience et ta douceur dans l'éducation que tu fais auprès des autres qui... puis je suis pas en train de nécessairement les pointer du doigt, là, mais encore une fois, quand tu dis « Ah, ben, y a moyen que je trouve le ton pour lui dire », alors que dans cette interaction-là, techniquement, des fois, il y a des gens qui cross the line un peu, tu sais. Mm-hmm. Fait que je te trouve bonne d'avoir cette patience-là.
Merci.
Est-ce que... Moi, je vois à quel point aussi c'est important la représentation, mm-hmm. Parce qu'il faut entendre des histoires comme les tiennes, mm-hmm. pour... Aussi, tout le monde n'a pas le même niveau d'empathie. Mm-mm. Est-ce que des fois, t'es un peu découragé du niveau d'empathie ou au contraire, t'es comme « Ah, j'ai espoir, j'ai l'impression que ça s'améliore. »
Bonne question. C'est sûr qu'on est... Il y a encore beaucoup de travail à faire. On fait des petits pas qui, c'est sûr qu'au niveau de la société, c'est là où on essaie plus d'éduquer, de sensibiliser, mais c'est peut-être pas un travail que je peux, moi, toute seule, endosser vraiment pour toute une communauté. Ça serait trop lourd, puis j'aurais pas le temps, puisque, mon Dieu, on est combien? Mais moi, j'essaie de vraiment plus faire, tu sais, chacun fait sa communauté, elle sensibilise de plusieurs côtés. On est plusieurs maintenant qui sont quand même assez médiatisés au niveau des personnes trans. Donc là, c'est sûr que chacun essaie de faire son travail de son côté. Puis je pense que quand on regroupe tout ça, ça fait quand même un impact au niveau de la société.
Ouais. Puis quand... sens-toi vraiment à l'aise si ça tente pas de parler de ça, parce que ça doit devenir aussi fatigant, mais quand t'entends des dirigeants politiques ne pas admettre que le racisme systémique existe, il y a un petit peu de découragement, non?
Effectivement. Effectivement, parce que moi, c'est sûr que je vis, comme je disais tantôt, comme différentes formes d'oppression, dont... parfois, je sais pas c'est dû à quoi.
C'est ça.
Parce que moi, j'en ai deux. Donc, c'est vraiment deux ma couleur de peau parce que je suis une personne noire. Puis aussi, je suis une personne trans. Puis aussi, en tant que je suis une femme trans. Donc, c'est là où généralement, toutes les agressions que j'ai à vivre, je ne connais pas quelle est... C'est dû à quoi? Parce que je peux pas être dans la tête de l'autre personne qui a commis ce crime, tu vois. Et juste pour donner un exemple qui m'est arrivé hier, j'étais chez le médecin, puis moi, j'ai changé mon nom. Et j'ai changé tout. Donc, la carte d'assurance maladie, elle change, puis il y a le numéro qui change et tout. La date d'expiration et tout. Et c'était écrit mon nom avec mon prénom. C'était écrit « Madame ». Et je sais, parce que je vais souvent à cette place, puis je ne suis pas folle, je vois cette étiquette. Normalement, c'est obligé d'écrire « F »,« Femme » à côté. Mais à côté, c'était écrit « Homme ». Ça m'a tellement... Et là, j'en ai parlé au médecin, puis j'étais comme... au médecin de famille, j'étais comme... Si je parle encore, ça va être perçu comme quoi, OK, Alicia se plaint beaucoup ou que je paranoïe. Mais j'étais comme, je peux pas pointer le doigt sur qui est la personne. Mais je sais que dans les secrétaires ou les secrétariats, les gens qui travaillent au niveau du secrétariat, pourquoi c'est marqué? Regarde juste à côté de mon nom. Puis il a vu, puis il était comme, ben là, tu sais, c'est écrit le nom, c'est écrit F, c'est écrit Madame, tu sais, tout, pourquoi? Tu sais, je pense que c'est la coche, tu sais, c'est comme, peut-être dans le niveau du système, ils peuvent cocher, tu sais, H pour homme ou F pour femme, mais tu sais, les gens vont peut-être, par méchanceté, le cocher. Donc, quand je l'ai vu, j'ai pris la photo parce que j'étais comme, il faut que je vois ça. Puis malgré tout ce que j'ai fait, que j'ai changé de nom, que c'est quelque chose qui se passe depuis 2019, je retrouve ça encore en 2021. Et là, je me dis, cette fois-ci, on va le mettre sur quoi? Est-ce qu'on va le mettre parce que je suis noire ou on va le mettre parce que je suis, tu sais, une femme trans? Tu comprends?
Mais c'est pour ça que des fois, je parle d'empathie parce que... j'aime ça, puis je peux pas m'imaginer comment toi tu te sens quand il y a des gens qui font on fait notre possible, tu sais, on commence à s'améliorer, puis c'est comme on n'est pas en train de dire que c'est pas ça, mais moi à chaque fois j'entends ça, je trouve qu'il y a un flagrant manque d'empathie, parce que je fais, ça aurait pu t'arriver à toi.
C'est tout ce que je vois dans les nouvelles, ça aurait pu arriver à moi. Puis ça, c'est comme, c'est juste là-bas. C'est même pas que pour que je demande des soins ou je viens là pour vraiment être soigné, pour vraiment avoir mes traitements. Mais parce que je tombe sur des personnes, je vais vraiment essayer d'avoir un langage, tu sais. Mais des personnes comme ça qui décident de donner, de faire encore plus vivre la misère, parce qu'on reste dans un, c'est un vocabulaire poli, mais tu sais, te vivre encore plus la misère, et c'est là où tu dis, mais tu sais, voyons donc, ça a pas de sens. Et puis lui, il le voit, puis il était comme, si je vais parler, ça va faire pas un scandale, mais ça va être entendu. Puis et des patients qui attendent, et de la clinique, fait que j'étais comme, je te laisse la charge d'aller en parler, puis que ça doit être changé, parce que moi, j'ai besoin que ça soit marqué, parce que tu le sais que j'ai travaillé fort, puis que je me suis battue pour avoir ça. C'est pas une personne qui, sur le coup du racisme ou de la transphobie, que je sais pas moi sur quoi le mettre. Et donc quand on dit que vraiment le racisme systémique, c'est ça, ça existe pas, ou que ah ou qu'on est au Canada, à Montréal, que la transphobie n'existe pas, moi je leur dis mais vous n'êtes pas dans mes chaussures, donc vous pouvez pas savoir, c'est les réalités que j'ai à vivre. Et quand je l'explique, les gens sont choqués que ça arrive encore à ça, puis ils sont comme mais pourquoi te faire vivre autant de misère et tu sais des discriminations. Donc ouais, dans mon cas moi, c'est toujours, je me pose la question, parfois je me dis ok, est-ce que c'est dû à ça ou ouais.
Donc, c'est fatigant, c'est aussi fatigant. De constamment être un peu sur ses gardes ou faire ah là attends là, c'est quelle partie de moi que je suis censé défendre? Mané, c'est comme, si, moi. C'est pour ça que je trouve que on s'améliore, puis il faut évidemment célébrer les petits pas qu'on entreprend en tant que société. Mais faut. C'est pour ça que souvent, des fois, peut-être que les gens qui écoutent me trouvent fatigant, mais je parle beaucoup d'empathie parce que je fais. J'ai pas choisi qui je suis, t'as pas choisi qui t'es, on est juste arrivé, puis c'est comme ça.
Tout à fait.
Puis c'est là où des fois je fais comme ah, mais faut plus d'empathie parce que c'est ça, tu sais, je sais pas c'est quoi que tu vis, je peux juste être empathique à ce que tu vis, tu sais.
Puis voilà pourquoi je trouve vraiment important que les gens, tu sais, partagent leur histoire ou leur vécu, parce que c'est vraiment en parlant. Tu sais, il y en a peut-être des gens qui le vivent, mais qui n'ont pas peut-être, tu sais, l'espace ou l'endroit pour vraiment en parler. Mais moi, je me dis à chaque fois que j'ai une occasion de vraiment expliquer, moi, je vais le dire. Puis c'est sûr qu'il y a des journées où j'ai plus de force vraiment de me dire « Ah non, ça, aujourd'hui, non, je vais pas me laisser ça. » Puis parfois, ça tombe sur une personne qui... Elle va manger tout le cumul que j'ai dû garder. Puis non, c'est dur, c'est difficile. Donc... c'est pour ça que quand les gens me demandent est-ce que c'est facile, je leur dis c'est pas quelque chose de facile. Sois sûr que vraiment dans quoi tu t'embarques. Moi peut-être je n'avais pas idée jusqu'à ce que vraiment j'entame la transition puis que je sois vraiment à l'intérieur de voir tous les problèmes que j'aurais peut-être à vivre. Parce que là j'étais peut-être ok avant un homme gay, mais j'étais c'est sûr entre parenthèses, mais vraiment j'étais comme j'avais certaines réalités, mais là d'être encore femme trans, je ne pouvais pas comprendre les réalités que les femmes trans pouvaient vivre tant que j'avais pas fait ma transition puis que j'étais pas là-dedans. Donc c'est là où je suis comme aïe aïe, comme tout ça j'étais pas au courant de tout ce que j'aurais à vivre. Donc c'est vraiment en étant à l'intérieur, que en faisant ma transition, en voyant toutes les difficultés, que je me rends compte que c'est pas facile. C'est pas facile, mais le combat doit être continué, doit être mené. Voilà pourquoi je demande, c'est vraiment important qu'il y ait plus de visibilité.
Oui.
Puis surtout encore des people of color, vraiment des personnes, vraiment des minorités. C'est encore plus important parce que elles sont là. C'est Montréal, c'est une ville multiethnique. Donc c'est sûr qu'il faudrait plus de représentation, c'est culturel.
Et c'est la richesse aussi. D'ici, t'es la richesse du Québec. Tu sais, c'est ce qui fait que c'est extraordinaire être ici. Tu sais, c'est le mélange des cultures, puis le partage. Il y a aussi... est-ce que t'as l'impression... Puis c'est pour ça que souvent, je te parle de ta force. En tout cas, tu sais, j'admire cette force-là parce que aussi, c'est une... Est-ce que t'as l'impression que ta vie est politique?
Oui, c'est sûr que parce que oui, il faut montrer que on revendique en fait notre place dans la société. C'est comme si on tape sur la table et on dit que comme on existe, nous sommes là, nous avons toujours existé. C'est sûr que oui, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a à vivre, on est vraiment marginalisé, plus marginalisé de la société. Donc, on n'est certainement pas vu vraiment dans le quotidien ou dans la vie de tous les jours de toutes les personnes. Mais voilà, par exemple, pourquoi, si je prends, je pense que le déclic, si on va revenir, par exemple, au, je donne un exemple très clair, à la couverture du magazine Véro, tu sais,
ouais.
Même quand ils recherchaient vraiment à inclure une personne trans noire, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est directement, tu sais, d'une personne à une personne qui s'est arrivée directement à moi pour dire, oh, il y a une personne de la communauté qui s'appelle Alicia, puis qui est là, qui est impliquée dans tout ce qu'elle, dans le communautaire, puis qui fait vraiment un travail remarquable, puis on va mettre en contact. Puis c'est là où vraiment c'est arrivé à, jusqu'à, comme par exemple, Véronique Loutier, puis que comme, tu sais, on soit à la couverture du magazine Véro, puis que le monde sache vraiment que nous existons, puis nous soyons là. Puis souvent, les gens disent, ah, je savais peut-être pas qu'il y avait des femmes trans qui étaient là, puis qui vivaient certaines réalités avant. Je pense que ça a pris peut-être cette couverture médiatique pour vraiment montrer qu'on existe, puis qu'on est là. Puis je dis souvent, je suis pas la seule, il y en a d'autres. Mais parce que... on est souvent mis de côté, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Voilà.
C'est que, puis tantôt, tu disais que tu ne voulais pas prendre cette pression-là, mais assurément qu'il y a plein de jeunes personnes qui look up à toi. Puis heureusement. Puis je pense que le fait que tu le fasses avec toute ta douceur et ta candeur, en tout cas, moi, c'est le genre de...
Ma grandeur, oui. Hein.
Ta candeur.
Grandeur, okay.
Ta grandeur aussi. Mais il y a quelque chose là-dedans de très... vraiment profondément inspirant.
Mm-hmm. Puis je pense que c'est les commentaires, si je pense, de ma communauté qui est revenue ou de mes proches, c'était comme... OK, elle mérite sa place là. Puis je pense que c'était pas juste la communauté trans qui était vraiment comme contente, qui est vraiment une représentation, mais c'était vraiment, je peux dire, la communauté LGBTQ en général, tu sais, les queer, tu sais, les personnes non-binaires, ou généralement les gens de la communauté qui étaient contents de voir que, ah, nous avons vraiment, tu sais, il y a une inclusion qui est faite ici, ce sont toute la plupart, le reste, tu sais, des femmes cis, mais OK, nous avons une représentation, puis c'était comme, Alicia, là, c'est les commentaires, c'est comme, Alicia, tu devais être là, c'est comme, ça c'est pour nous, it's a winner, fait que c'est là où je suis, ça me donne, je pense, pas une reconnaissance, mais je suis comme, OK, je représente vraiment une communauté qui est souvent mise de côté.
C'est que ça peut être une pression, mais de ce que j'entends, de ce que tu dis, ça peut aussi être un soutien.
Mm-hmm.
Tu les représentes, mais mm-hmm. tu te sens soutenu par cette communauté
mm-hmm,
aussi.
Mm-hmm. Surtout ceux de, vraiment de ma communauté noire, encore plus, parce que c'est sûr qu'ils sont comme, OK, Alicia, tu fais vraiment, certes, un travail remarquable, tu essaies vraiment d'être impliquée dans plusieurs choses, puis là, on reconnaît, c'est le moment où vraiment on reconnaît que toutes ces années que tu as faites, c'est là. C'est là où on reconnaît que you're doing amazing. J'ai mon ami qui me dit souvent, you're doing amazing, sweetie.
Wow.
Puis, je suis comme, oh my God, thank you. Puis c'est là où tu réalises, puis les gens sont vraiment contents, puis il y a du monde qui te supporte, puis qui sont là, puis qui croient en toi. C'est vraiment important aussi d'avoir des gens qui croient en toi, puis qui te supportent, parce que c'est pas facile. Puis ils le savent. Puis ce soir, c'est ces personnes-là que je vais derrière eux. Puis quand c'est difficile, je pleure. Ou qu'il y a des journées où c'est plus difficile que d'autres. Mais là, ils sont comme, Alicia, tu peux pas abandonner. Comme, t'as fait tellement. Tu es là, puis tu fais des petits pas. Mais regarde tout ce que tu fais comme travail à côté. Tu es une inspiration. Donc souvent, quand j'ai à lire vraiment mes messages, les feedbacks que je reçois des gens, ils sont contents qu'il y ait, tu sais, quelqu'un qui le représente.
Mmh.
Que ce soit les gens de la communauté LGBTQ ou des gens de la communauté noire, ou parfois des gens qui appartiennent aux deux, qui se disent, oh my God, genre, il y a quelqu'un qui est là pour nous représenter. Et je me dis que tout le monde peut être un modèle, hein. Moi, je ne suis pas... Oui, les circonstances de mes implications ont fait que je suis arrivé jusque-là. Mais je pense que tout le monde est un modèle. En vivant sa vie en toute authenticité, chacun est un modèle.
Je pourrais pas être plus d'accord. Je trouve que aussi, ce qui est si inspirant, en fait, c'est que t'incarnes tout ce que tu prônes. Et c'est ce qui fait que t'es un modèle. T'es pas arrivé en faisant « moi, je veux devenir un modèle. Mm-hmm. Moi, je veux inspirer les gens. Mm-hmm. » C'est pas l'étape 1.
Non.
C'est l'étape 100. C'est que t'incarnes tout ce que tu prônes, t'incarnes qui tu es. Mm-hmm. Et l'incarnation de ton être, c'est ça qui est inspirant.
C'est beau.
Mais c'est vrai. C'est vrai.
C'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai, tu as raison sur... je te seconde là-dessus. C'est important. Tout le monde, moi je dis à tout le monde, chacun a une histoire qui mérite d'être entendue. Pour repartir, par exemple, juste avec mon médecin, on avait eu le temps d'en parler, j'étais parti le voir. Et... tu sais, il m'en parle, puis t'es comme, ah, j'ai entendu le dernier podcast, par exemple, que tu as fait. Puis, my God, mais ton histoire, elle mérite d'être écrite. Même si tu ne sais pas comment écrire, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui puisse l'écrire. Oui, c'est sûr, tu n'as pas 80... Lui me disait comme ça, tu n'as pas 80 ans, puis que tu as vécu, donc c'est sûr que tu n'auras pas 300, 400 pages à dire, mais de tout ce que tu as vécu, c'est qu'en écoutant le podcast, puis il était comme « Waouh, c'est un parcours et ça me permet de connaître un peu plus Alicia.
Ouais. »
Donc, c'est là où il me dit « Mais tout le monde, il me dit, tu sais, moi aussi, j'ai mon histoire, je peux vraiment l'écrire parce que je viens de très loin, je suis personne migrante, j'ai mon histoire, il y a des choses que j'ai dû sacrifier pour venir ici et tout un chacun peut-être banalise son histoire en disant qu'elle n'a rien de sensationnel, mais alors que non, on peut aller avoir un impact dans la vie de tout un chacun pour différentes raisons.
Absolument.
Ouais.
Moi, j'irai voir le film de ta vie avec grand plaisir. j'imagine que ton médecin parlait du podcast que tu as fait avec Fabrice Ville.
Oui, il parlait de celui-là avec Fabrice Ville et l'autre avec Corneille qui est sorti.
Oui, oui, c'est vrai.
Non, c'est vraiment là où il était comme...
Oh, Corneille.
Wow. Tu sais? I know.
Corneille, man!
I know, that's...
Je l'ai rencontré.
Même Fabrice Ville, j'étais comme... J'en revenais pas. J'étais comme, oh my God.
Mais vraiment...
Moi, j'étais comme... Oh. Puis je regarde toutes les invités qui sont passés puis j'étais comme, oh my God, genre... Tu sais, you have a pressure, t'as une pression, tu comprends? Puis Corneille encore, c'est quelqu'un que j'ai écouté ses chansons, j'ai chanté ses chansons, j'ai grandi avec. Et de là, de dire, my God, genre, c'est intimidant. C'est parce que tu vois la personne que tu avais ses petits posters, t'apprenais ses chansons, puis là, tu l'as en face de toi. Puis là, même pour toi, c'est comme quand on m'a annoncé que tu voulais m'avoir à ton émission et que tu voulais me rencontrer. Je vais le dire parce que la personne, ça m'a mis en contact. J'ai crié au téléphone.
Yes!
J'étais comme, oh my God! Genre, pour vrai, Dieu du temple de vraiment occupation. Non, attends, non, c'est pas possible. Non, impossible. Pardon, moi, il veut me rencontrer, moi. Comme, tu sais, c'est comme...
Mais tu l'as dit.
C'est incroyable.
Tout le monde a une histoire, puis ton histoire est extraordinaire, puis elle doit être entendue parce que puis loin de moi l'idée de mettre de la pression sur toi, c'est pas de la pression, c'est de faire, encore une fois, je trouve que tu t'incarnes ton histoire et avec plein de candeur, mais c'est important qu'elle soit entendue parce que faut vraiment que les gens soient empathiques à ton histoire, parce que c'est l'histoire,
oui, soient éduqués aussi,
exact. Mais ouais, puis j'invite les gens à aller écouter les podcasts autant avec Fabrice Ville que Corneille. Fabrice qui est brillant, quelle chance brillant d'avoir ce gars-là dans nos médias, quelle chance. Puis Corneille, moi j'ai vécu la même chose que toi, j'ai fait la première fois que je l'ai rencontré juste deux fois. Je faisais une game de soccer caritative. Patrice Bernier et ses amis, ils avaient organisé une game de futsal, donc du soccer intérieur, pour une levée de fonds. Puis je pense que c'est en 2018, février 2018. Puis il m'invite. Moi, je sais pas jouer au soccer. Ben, tu sais, ben, je suis content d'être là. Et j'arrive. Et il y a plusieurs vedettes, là, tu sais, qui sont là. Et la seule à qui j'ai demandé une photo à la fin, c'est Corneille.
Pour vrai?
Oui, mais j'ai arrêté. Je m'en allais. J'ai fait... Corneille, excuse-moi, est-ce que je pourrais prendre une photo? Comme, ah ouais, Jay, avec plaisir. Puis j'ai comme, ah, il y a DJ, man.
Oh, il te connaît. I know.
Sweetest
c'est,
dude.
C'est la même chose, en fait, avec lui, puisque moi, j'ai été amené au fil des ans depuis que je suis arrivé ici. J'ai eu le temps de le voir. Ah, moi et les noms, là, c'est des places ou des personnes. Je pense que c'est un théâtre qui se trouve, un théâtre Virgin ou quelque chose comme ça, qui se trouve vraiment vers Notre-Dame, proche du métro à Twitter. Puis il avait fait vraiment un lancement ou un petit... Tu sais, il a l'habitude de faire, tu sais, pour la promotion, de lancer 2-3 chansons de son album.
C'est ça au Théâtre Corona?
Voilà, le Théâtre Corona. Voilà. Je pense que c'est ça.
Magnifique endroit.
Et je pense que c'était il y a, je sais pas combien d'années, 7 ans, 8 ans. Puis moi, je suis allé là. Donc, je m'étais inscrite. J'étais allé là. Je partais le voir en concert. Puis j'étais devant. J'ai une vidéo de lui. Je pense qu'il y a 6, 7 ans. C'est la première fois que j'avais comme enregistré. Puis j'étais comme, j'ai rencontré, c'est là où j'étais comme, j'aurais jamais imaginé que peut-être en Afrique, oui, peut-être là, l'artiste se déplace en Afrique, mais j'étais comme, de le rencontrer, puis d'être aussi proche ici à Montréal, c'est incroyable. Et là aussi, il a fait un autre concert où, quelques années plus tard, j'ai été. Et là, en 2019, il faisait la promotion de son album qui venait de sortir. Et moi, je me rappelle, quand c'est sorti, il était comme, OK, vous avez la possibilité de venir assister. Il n'y avait pas beaucoup de place, c'était... Oh my gosh, sur Sainte-Catherine-Est, dans le village, c'est le l'Olympia, voilà.
Ouais.
Non, fait que là, après quand il faisait ça, j'étais comme, ok, je disais à mes amis, on doit y aller, j'ai un plus un, on y va. Fait que on avait été à son concert et à la fin, mon ami était comme, j'ai comme, ah, oh, il vient passer dans la foule pour dire allô. Fait qu'on n'était pas nombreux. Et j'étais comme, mais viens-t'en, on va le voir. Puis finalement, il était comme, non, je veux pas. J'étais comme, viens-t'en, on va dire allô. Non, je veux pas. Et j'étais comme, moi, je l'avais déjà vu en concert plusieurs fois. Fait que j'étais comme, OK, c'est une personne comme nous, hein.
Ouais.
On va juste le dire allô. Si elle veut pas, au pire, on va se prendre un vent où la personne va se dire qu'elle est trop occupée ou elle aura, tu sais, parce qu'il y a un regroupement, tout le monde veut essayer de dire allô. Et là, je pars et je le salue et je le dis allô. Et voilà, et on se laisse et je prends un boomerang, je pense, avec lui, vraiment, et puis je rentre. Mais j'aurais jamais, tu sais, imaginé que vraiment, comme on se disait tantôt, avec lui, que la roue tourne et qu'à un moment, quelqu'un que j'aille voir en concert, ce soit la personne qui, tu sais, lise le magazine, puis entende parler de moi par Véronique Loutier, puis que ça clique, puis qu'il lit le magazine, puis il décide dans toutes ces femmes-là qui vraiment ont fait la couverture, de me rencontrer moi. Et là, j'étais comme, my God, j'ai autant crié que comme quand j'ai reçu. Je pense que j'ai crié, j'étais comme, c'est pas possible. Je pense jusqu'à ce que je prenais le taxi pour m'en venir vraiment pour le tournage du podcast, je ne réalisais toujours pas. Et je pense que c'est la même chose aussi pour dire, oh my God, tu veux voir, tu as du temps. Mais,
ah ben, Corneille, on peut le mettre une 3-4 coches plus haute, là, quand sûr, même. Là, mais... Ouais, je me souviens acheter son album, là, tu sais, c'est quel album extraordinaire, tu sais. Même mon meilleur ami et moi, Joey, qui est venu sur le podcast deux fois, cet album-là de Corneille, ça fait partie de l'histoire de notre amitié, tu sais, comme on, il est extraordinaire, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Mais encore une fois, je trouve que, ça te revient à toi. C'est toi qui, à traverser toutes ces embûches-là pour incarner qui tu es, pour t'affirmer dans tout ce que tu es. Et donc, ça te revient juste à toi. Encore une fois, je pense que ces invitations-là, it's on you.
Mais je pense que je retourne toujours. Moi, je suis une personne qui est humble. Je retourne toujours l'invitation parce que ça part de quelqu'un, l'invitation. Donc, je retourne l'invitation toujours à toi puis à tous ces gens qui ont décidé de m'écrire et de me dire, OK, j'accepte de vraiment t'avoir avec moi. Parce que quand ils m'ont contacté, puis ils m'ont dit, bah oui, je vais bien la rencontrer. J'étais comme, my God. Moi, tu sais, c'est comme, OK, on va en parler, tu sais, ce qui nous amène ici. Mais tu sais, en même temps, j'étais comme, waouh, c'est juste incroyable. Puis merci vraiment.
C'est ça fait vraiment plaisir d'être rencontré. En plus, là, tu fais partie des Audacieuses avec le camp. Veux-tu m'expliquer comment ça s'est passé pour toi? Ça peut, expliquer ce que c'est mm-hmm. aux gens, puis comment tu as reçu l'invitation, comment tu t'es ramassé dans ce groupe de femmes extraordinaires?
Oui. Alors, le camp, c'est ils viennent en aide, en fait, aux familles des enfants qui sont atteints du cancer.
Exact.
C'est-à-dire que dès que...
J'ai rencontré le camp. J'ai fait le défi tête rasée début 2020.
Oui.
Et j'ai rencontré l'équipe de le camp à ce moment-là. Puis une équipe extraordinaire. J'étais mm-hmm. allé visiter wow. aussi à l'hôpital avec.
Saint-Justine.
Ouais, exact. J'étais allé faire le tour de l'aile de Sainte-Justine qui mm-hmm. est parrainée par le camp là. Puis j'étais vraiment impressionné par. La générosité, la gentillesse de
toute l'équipe. Ils sont oh extraordinaires. Ils sont fins, ils sont adorables. Ils ont une facilité à nous mettre vraiment très à l'aise. Parce que c'est sûr que généralement, moi, quand je connais pas vraiment les gens, j'ai peur, je suis toujours sous la garde parce que je ne connais pas qui j'ai vraiment en face de moi et je me dis, est-ce que cette personne est ouverte d'esprit? Est-ce que cette personne ne va pas me juger mm-hmm. de par rapport à qui je suis? Donc, j'ai toujours, tu sais, une certaine réserve. Donc, c'est sûr que oui, comme je disais tantôt, ils viennent en aide dès que l'enfant est diagnostiqué d'un cancer. Ils contactent vraiment les familles des enfants qui sont atteints du cancer. Et ils prennent en charge et aident vraiment l'enfant à traverser comme tout ce processus là. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable et que je salue vraiment. Puis ils sont là, je pense, ça fait 40 ans.
Ouais.
Donc c'est juste incroyable. Moi, je n'avais jamais, j'avais entendu, je connaissais toutes le cancer du sein et tout ce que je entendais, le camp, mais je savais pas que c'était là depuis tant d'années, puis qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à ce qu'ils me contactent. Alors eux, la directrice, ils ont entendu parler de moi de par le magazine Véro, et ils étaient à la recherche, en fait, depuis plusieurs mois de différentes femmes, de différents milieux qui... Ouais. C'était la première fois qu'ils réunissaient, c'est un nouveau projet ouais. qu'ils ont vraiment de réunir 10 femmes, et... là, il y avait eu Marie-Mé qui avait eu à faire vraiment la couverture aussi comme toi du magazine. Puis elle avait vraiment rasé les cheveux. Puis c'est elle la marraine. Oups, sorry.
La boucle d'oreille.
Oups.
Faut pas l'oublier.
et voilà. Et je pense que de là... et là, quand ils m'ont contacté, ils nous ont dit comme quoi nous avons vraiment une marraine, puis nous sommes à la recherche de femmes qui sont qui je pense qu'ils ont 5 critères qui font d'une femme une audacieuse. Et quand elle m'a contacté, la directrice était comme, nous avons demandé les coordonnées au magazine Véro, et on a eu, je pense, maintenant c'est sûr qu'avec la pandémie tout se fait par Zoom,
ouais.
Donc on a eu vraiment comme le meeting, ils ont dit on aimerait vraiment te parler, et moi j'étais comme ok cool, on va se parler et tout. Et qu'est-ce qui se passe par après avec le cas, c'est sûr que ça dérange, qu'est-ce qui se passe par après, c'est que on fait le meeting, on se rencontre par Zoom, il y avait la directrice, puis je pense Alessandre, puis la personne qui nous a mis en contact tous les ouais. deux. Puis c'est sûr qu'ils m'ont dit, ah ok Alicia, alors on a entendu parler de toi, merci beaucoup de nous donner ton temps. Alors ils m'ont expliqué c'est le camp, en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'ils font, et je trouvais ça vraiment incroyable. Puis j'étais comme, moi j'ai pas eu autour de moi des enfants qui ont été atteints du cancer autour de moi, donc je connaissais pas, mais c'est quelque chose que oui, le cancer ça peut attraper n'importe qui, j'aurais pu. Puis là ils m'expliquent, puis ils me disent, ah alors, nous aimerions vraiment t'avoir. Donc, moi, j'étais vraiment honorée. Puis, ils m'ont expliqué vraiment comme tout ce qui se passait. Puis, c'était comme, nous avons déjà trouvé certaines femmes. Puis, nous attendons vraiment de finaliser, mais on aimerait vraiment t'avoir là. Et j'ai vraiment trouvé que c'était encore une fois nice de leur part, de comme vraiment inclure, vraiment de faire une inclusivité vraiment de différentes femmes. Mm-hmm. Tu comprends? Surtout ouais. aussi, c'est sûr que je suis la seule personne de, en tant que minorité visible, mais en même temps, bon, c'est sûr qu'il y a une autre personne, la communauté LGBT. Mais tu sais, moi, de me dire, OK, j'apporte vraiment, comme une, encore une fois, une représentation, ouais. Puis vraiment une inclusivité en tant que femme trans, parce que les femmes trans sont avant tout des femmes. Donc ça, j'ai vraiment apprécié ça de leur part. Et puis là, ils m'ont expliqué comme quoi, alors ce qu'on on attend de ta part, c'est vraiment comment on va faire, c'est que vraiment à telle date, nous allons le 28 qui s'en vient.
Le 28.
Le 28 mars. Mars, oui.
C'est bientôt
c'est
là.
Dimanche.
Fait que, mon Dieu, fait que ça veut dire que quand le podcast sort, c'est fait.
Ah oui?
Oui.
OK.
Ça va sortir le
Mais les gens peuvent toujours continuer à donner.
Oui, les dons, les toujours dons à Lucan, évidemment.
Mais oui, c'est sûr que ça sera, le défi sera déjà...
On va peut-être s'arranger pour le sortir avant. Je vais parler avec mon beau Nick. Parce que dans le fond, là, on est le 24. On est mercredi le 24. Mm-hmm. Et là, c'est dimanche.
Oui, c'est dimanche.
Que tu fais le défi tête rasée.
Dimanche,
avec
après-midi.
Toutes les autres femmes. Mm-hmm. OK. Ben, dans ce cas-là, on va le sortir vendredi. On s'en reparle, Nick. Ça va être sorti.
Oh, my God.
Ça va être sorti.
Merci.
C'est extraordinaire. Oh, mon Dieu. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, le pire, en fait, là, je veux pas te couper la parole. Je veux que tu continues d'expliquer c'est quoi les audacieuses. Mm-hmm. Moi, quand j'ai approché le camp, on a eu... Faire. Tu peux enlever tes écouteurs si jamais la boucle
faire.
D'oreille... La belle boucle d'oreille est
je
super belle.
Merci.
Pour les gens qui sont audio en ce moment.
Purple, la couleur de la royauté. Ouais.
Mais voilà, donc dans le fond, moi, quand j'ai fait le défi d'être rasé puis que j'ai rencontré le camp, j'étais comme... Je voulais m'assurer, en fait, juste de... Pour moi, c'est important de pas juste envoyer un chèque. T'sais, je voulais rencontrer autant l'équipe que les personnes atteintes, que les familles. Pas en tant qu'héros, mais juste pour comprendre un peu mieux cette réalité-là, par empathie. T'sais. Et par la suite, ben pour moi, c'est important de garder ce lien-là avec le camp de... Tu sais, on est des alliés, on est des amis, on va s'aider. Et elle m'avait glissé mot de leur projet. Et là, quand j'ai vu les audacieuses, quand ça a été posté, quand ça a été annoncé, j'étais vraiment excité. Donc je suis vraiment heureux. Et là, c'est ce dimanche, défi tête rasée. Qu'est-ce que ça représente pour toi que de faire le défi tête rasée pour le camp? En tant qu'audacieuse.
Ouais. Alors, pour revenir à l'histoire, quand ils m'ont proposé, ils m'ont dit comme quoi le défi serait vraiment de se raser les cheveux au complet pour vraiment. C'est le défi d'être rasé. C'est comme ça que ça consiste. Et moi, je pense que j'ai été très honnête avec eux, puis avec elles plutôt, et je les ai dit, je pense pas que ça serait possible. Puis j'ai expliqué pourquoi. Je les ai dit, j'ai vécu beaucoup de micro-agressions, si on veut dire comme ça, mais vraiment beaucoup de traumas. Le mot, c'est vraiment les traumas quand j'étais jeune, parce que les garçons doivent avoir les cheveux courts, donc il faut vraiment aller se raser les cheveux, se couper les cheveux. Une fois par mois, ou pire, une fois au mois et demi, max 2 mois. J'essaie de repousser le plus possible aux 2 mois. Et j'ai été très claire en disant comme quoi j'ai tellement été privée de mes cheveux parce que je devais suivre un certain stéréotype de la société où on disait que les hommes, les garçons, ça doit vraiment les cheveux courts, rasés, c'est ce qui fait propre, c'est ce qui fait... C'est le code d'éthique. Et j'ai tellement souffert à tout le temps, tu sais... me raser les cheveux à contre-cœur, que depuis que je suis arrivée ici et que une fois encore, comme je disais, quand tu vivras vraiment de toi-même, de ton toit, tu pourras faire ce que tu veux.
Ouais.
C'était pour moi, mes cheveux et même toutes mes coiffures et tout ce que je fais, c'est une forme pour moi de revendication. Et c'était la première chose, en fait, qui m'a aidée à vraiment plus affirmer vraiment mon genre, de vraiment porter des extensions, de vraiment faire différentes tresses longues. Donc, c'était pour moi vraiment une forme de vraiment de revendication et de vraiment de montrer vraiment qui je suis aux yeux de la société. Donc, c'est vraiment les ongles faits, puis les cheveux. Et quand ils m'ont demandé ça, j'étais comme, j'ai plus rasé les cheveux depuis, je pense, 2012. Et même avant ma transition, pour respecter certains standards, de me dire que comme, OK, le côté masculin, on peut dire, de la chose. Il fallait avoir les cheveux rasés. Donc, et c'est là où en 2012, j'étais comme, non, je suis là, je suis au Canada, je peux garder mes cheveux, faire des tresses, je peux faire des dreads, je peux faire différents styles. Je veux vraiment aller explorer cet univers que j'ai jamais eu vraiment parce que je vivais en Afrique et que j'étais sur la tutelle des parents, tu vois. Et donc, quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit, j'ai eu trop de trauma par rapport à ça. Je pense pas que je suis prête à pouvoir encore une fois sacrifier tous mes cheveux, les laisser pour ça. Donc j'étais comme merci beaucoup pour l'offre, c'est vraiment très gentil d'avoir pensé à moi, mais voilà. Puis je pense à la directrice, c'était comme je comprends Alicia, mais on aimerait vraiment ça t'avoir, on te laisse quand même le temps d'y penser, si jamais ça arrive que tu changes d'idée, tu peux toujours nous revenir là-dessus. Puis je pense que cette même journée, ça tu sais, j'ai fermé elles étaient émues, elles étaient sur les émotions, elles ont vraiment aimé le côté où vraiment j'étais très honnête et que j'ai expliqué pourquoi, puis ils ont dit on comprend, et j'ai raccroché. Je pense on a fini l'appel Zoom et je suis resté là, je pense la même journée, j'arrêtais pas d'y penser, ça m'a trotté dans la tête le lendemain encore. Puis deux jours plus tard, c'était un mardi, puis je pense jusqu'à genre jeudi. Puis c'était comme, ah, on doit faire malheureusement l'annonce le lundi. Donc, tu sais, si on aimerait avoir une réponse de ta part avant telle journée. J'étais comme, OK. Et je me suis assise et je me suis dit, dans la vie, les opportunités qui se présentent à toi, pas pour rien. Elles arrivent à un moment où... Moi, j'y crois vraiment à tout ce qui est spirituel. Donc, je me dis, ça arrive pour quelque chose. Puis, quand une opportunité arrive, il faut savoir souvent la saisir parce que c'est pas une opportunité qui peut se représenter plusieurs fois. Dans le passé, j'ai eu à regretter beaucoup d'opportunités. Puis, par la suite, l'opportunité n'est plus disponible. Donc, je suis comme, ah, tu comprends? Mm-hmm. Et là, en grandissant, en étant plus mûr, j'étais comme, tu sais quoi, Alicia? Cette fois-ci, ce n'est pas mon père... qui m'impose vraiment d'aller me raser les cheveux ou de me dire d'aller me raser les cheveux, tu sais, mais j'ai moi la possibilité de le faire pour les enfants et ça va aussi, je pense, me permettre de guérir de tous les traumas que j'ai eu à vivre durant, tu sais. Tu sais, quand t'es jeune, jusqu'à peut-être l'âge 10 ans, tu réalises pas. Mais je pense qu'à partir de 10, 11, 12 ans, tu commences à être comme un peu éveillé. L'adolescence commence, tu sais, la puberté, ça change. Donc, c'est sûr que plus tu avances dans l'âge, tu vois que vraiment, ton corps ne change pas comme toutes tes amies filles que tu aimerais ou que forcément, c'est pas dans cette lignée où tu comprends encore plus la dysphorie que tu vis. Elle vient encore plus se présenter au fur et à mesure que dans peut-être l'enfance. Peut-être quand j'étais petite, puis je jouais avec les poupées, puis je jouais avec les amies filles. J'aimais ça juste avec les amies filles. Mais à l'adolescence, c'est là où tu comprends qu'on commence à te séparer, puis de montrer que non, il y a certaines choses que tu ne peux plus trop faire, puis que tu dois essayer de suivre cette ligne directive parce que tous les garçons, ça doit être comme ça. Tu comprends? Et là, j'étais comme, Alicia, là, non seulement tu le fais pour les enfants, tu permets en même temps aussi d'utiliser ta notoriété ou vraiment le fait d'être une personne publique et de vraiment d'aller ramasser des dons pour des enfants. Et en même temps, c'est une forme de guérison. De guérison par rapport à tous ces traumas que tu as, que j'ai eu à vivre. Et je pense que c'est une revanche par rapport au passé. Et de me dire, là, je le fais cette fois-ci, c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé.
Ouais.
Je le fais pas pour comme ça, de me lever vraiment parce que je vis une crise, je sais pas quoi, je me rase les cheveux comme... je prends l'exemple de Britney ou les gens, tu comprends?
Ouais, ouais.
Et mais de là, de me dire que cette fois-ci, je le fais, c'est pour une cause. Et ça, si je peux inspirer d'autres personnes à le faire... Et dans mon cas, à moi, c'est quelque chose où j'ai été privé d'avoir les cheveux longs pendant un long moment, que là, c'est comme une revanche, en fait, à cette période. Et c'est pour moi une forme de guérison.
Ouais.
Donc, c'est là où Je pense que c'était la date limite que j'ai envoyé un courriel et je les ai dit comme quoi, après mûre réflexion, j'ai fait, tu sais, le courriel, le truc. Je ne souhaite pas passer derrière cette opportunité. Et donc, c'est pourquoi j'accepte de faire partie des Audacieuses. Et elles étaient toutes contentes. Toutes les gens de le camp étaient vraiment très ravis et très contentes de vraiment entendre que je participais. Puis, ce sont des personnes, comme tu le dis, formidables, qui me rappellent à chaque fois combien ils sont honorés et contents de m'avoir parmi eux et que c'est sûr qu'ils vont aller, ne serait-ce vraiment sensibiliser d'autres personnes, que ce soit de la communauté noire ou de la communauté LGBTQ, de faire ce pas. Parce que tout le monde peut faire ce pas. Pas forcément qu'il faut faire partie des Audacieuses. Oui, mais personnellement, on peut décider de contacter le camp et de faire une levée de fonds, puis vraiment d'aller dire, OK, je vais décider de me raser les cheveux pour le camp, pour les enfants, pour le cancer pédiatrique. Et de vraiment, ce montant-là, aider des familles, des enfants. Donc, c'est là où j'étais comme... Ah ouais, let's go.
J'adore l'aspect spirituel pour toi, la réappropriation de ton histoire, de ta féminité, de ton être, de faire, hey, là, j'ai le contrôle et je le fais parce que ça me tente, je le fais pour moi.
Surtout de guérir de tous les traumas. Puis je pense que comme ça, souhaitement, moi, de me raser les cheveux, non. Mais je sais que, et j'en ai parlé à une amie proche, mais j'étais comme, ben oui, elle sait, puis au pire, les cheveux, ça repousse, mais c'est sûr que les cheveux des noirs, ça pousse plus lentement, fait que c'est sûr que ça prend du temps, mais au moins, sache que tu le fais pour une bonne cause, puis n'oublie pas, puis c'est sûr que tu vas inspirer une personne ou deux. Puis je me suis dit aussi, la peur, c'est que après cette étape-là, tu sais, là on en parle, ça va, mais le moment quand ça va arriver, puis que je vais vraiment, tu sais, qu'on va passer vraiment la première tondeuse, puis vraiment, j'appréhende ce moment. Je sais pas comment comment ça va se passer, mais c'est sûr que c'est dimanche.
Mais j'imagine qu'on peut le suivre en live.
Oui, on peut le suivre en live. Parfait. Donc tous les gens qui auront fait un don vont à ce moment-là recevoir un lien qui permettra d'assister en après-midi en fait à la journée du rasage. Puis c'est sûr qu'avec tout ce qui est Covid, on le fait malheureusement pas réunis tout ensemble, on le fait chacun de chez soi, mais on le fera quand même en groupe. Donc c'est quand même
assez... extraordinaire.
Ouais.
C'est extraordinaire. Encore une fois, j'admire ta force. Mais c'est puis j'ai que très peu de conseils à donner dans la vie, puis je pense que ton défi d'être rasé a plusieurs aspects sentimentaux beaucoup plus forts que celui que j'ai pu faire. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé là-dedans, c'est de vivre le moment, vivre l'émotion qui monte. Oui. Et à ce moment-là, je pense que c'est un moment qui... oui, tu le fais pour les enfants, mais tu le fais aussi beaucoup pour toi. Je dis les enfants, les familles et tout ça. Mais pour toi, et néglige pas cet aspect-là, parce que je pense que ça, tu le vis avec toi.
Merci. Ben, et, là, j'entends vraiment quelqu'un qui a déjà passé le cap. Donc, c'est très intéressant aussi d'entendre ton point de vue, comment tu l'as vécu aussi, puis... Comme tu le dis si bien, il faudrait vraiment que je vive ce moment-là, puis que voilà, je réalise. C'est sûr que j'ai une crainte par rapport à ça par après, parce que c'est sûr que en me regardant après dans le miroir, c'est sûr que par exemple moi j'ai de temps en temps, il y a tu sais cette dysphorie de toujours revoir l'ancien moi, fait que, c'est là vraiment je vais être plus de cheveux, plus rien, donc c'est vraiment aller, j'ai peur peut-être que l'image qui soit perçue, que je perçoive de moi-même en regardant le miroir ou en me regardant les photos, ou tu sais, est-ce que je verrai toujours en fait ces petites traces de si je peux dire masculinité, parce que certes j'ai pas eu à avoir peut-être déchargé au niveau du visage. Donc, est-ce que sans, je vais pas dire sans maquillage ou sans grosse boucle d'oreille, je trouvais une façon d'accessoiriser, mais est-ce que ça ne va pas me ramener à avant ma transition? C'est la question où j'ai peur, mais je me dis, écoute, j'ai accepté, j'ai dit oui, et je pourrais pas savoir tout ça si je n'ai pas atteint la ligne.
Donc. Mais puis le peu que je connais de leur camp aussi, évidemment que je pense qu'en t'invitant, te demandant, et elles étaient très conscientes que pour toi, ça avait une portée beaucoup plus grande, malgré le fait que j'ai toujours eu l'impression que une femme qui fait le défi tête rasée, c'est beaucoup plus impliquant qu'un homme. Sans rien diminuer, là, je veux pas diminuer qui que ce soit, c'est un geste qui est grandiose, mais tu sais, j'ai animé l'année dernière, l'été dernier, le printemps dernier, un grand défi tête rasée en ligne. Puis tu sais, je me souviens d'une petite sœur dont sa grande sœur avait été atteinte du cancer. Puis la petite sœur, pour elle, c'était d'une évidence qu'elle allait faire le défi tête rasée pour sa grande sœur. Et moi, je suis comme, oh mon Dieu, mais tu sais, tu peux pas rester froid à cette histoire-là. Et j'ai l'impression que ce que tu incarnes, encore une fois, c'est tellement puissant comme message. C'est tellement puissant. Mais encore une fois, j'admire ta force parce que on a beau être témoin de cette puissance-là, c'est toi ensuite qui dois l'incarner à tous les jours pendant des mois qui suivent. Et ça, c'est non négligeable. Mais je te souhaite sincèrement que ça guérisse, ou du moins que ça vienne panser une plaie par rapport à tes traumas du passé. Je te le souhaite vraiment sincèrement. Et que par la suite, en plus, ça renforcisse ton incarnation, puis tout ce que tu es, puis ta féminité. Puis je suis pas inquiet que tu vas trouver des beaux foulards à mettre sur ta tête, puis de rendre ça magnifique. Je suis même pas inquiet. C'est grandiose ce que tu vas faire. Bravo.
Moi, je me suis dit qu'en fait, c'est même si, même par après, parce que c'est sûr que les gens vont... Moi, je me demandais que vraiment après la campagne, puis après le défi très rasé, c'était terminé. Mais par la suite, les gens peuvent continuer à faire le don. Donc, même s'ils l'écoutent plus tard, peut-être pas au moment que ça sort, ou que les gens l'écoutent peut-être 2, 3, 4 jours, ils peuvent dire qu'ils peuvent continuer à faire ces dons. C'est possible directement ou en passant par une des audacieuses. Et c'est là où moi, je me suis dit, je vais... je disais, par exemple, à mon médecin, quand je suis partie le voir, j'étais comme, ah, je veux vraiment être tête rasée comme toi, donc on va vraiment ensemble. C'est sûr que moi, j'aurai mes petites lunettes, puis mes grosses boucles d'oreilles. Mais c'est sûr que, tu sais, on n'aura pas vraiment une grande différence. Puis t'es comme, aïe, aïe, tu vas vraiment venir, tu sais, me voir. Puis que comme, j'étais comme, oui. Je pense que si c'est, même si le défi est passé, c'est vraiment, je pense, c'est là où je pense plus que les gens vont percuter, vraiment. Parce que c'est sûr, il y aura des photos qui vont apparaître sur les réseaux. Donc, je vais vraiment, vraiment essayer de poster pour vraiment montrer que, oui, on a parlé d'un défi, mais voilà le résultat. C'est ça. Fait que je pense que c'est là où plus les gens vont allumer ou percuter pour dire, oh my God, elle l'a faite, là. Elle, c'est... Fait que, ouais.
C'est vraiment admirable.
Je suis stressé là, il reste combien de jours? Hein?
Je 4.
Oh my God.
Je comprends, c'est stressé. Je peux même pas m'imaginer.
Ouais, je suis capable. On va y arriver.
Ça va être un super beau moment.
Oui.
Qui va te raser les cheveux?
Alors, là, ils ont demandé si vraiment on avait vraiment une tondeuse, si vous voulez qu'on envoie une tondeuse, ou qu'ils envoient quelqu'un pour nous raser les cheveux. Et moi, j'ai carrément dit, oubliez ça, j'arriverai pas. Donc, il faudra vraiment quelqu'un qui soit là. Donc, il y aura une coiffeuse vraiment qui va venir, qui a été envoyée par le camp, qui va venir vraiment venir me raser les cheveux. Et voilà, donc elle viendra chez moi, puis elle va venir avec son matériel, puis vraiment à ce moment-là, à la maison, on va le faire. Et je pense très contente que je le vive, tu sais, dans un espace où je me sens safe, dans un espace où je sais pas si ça aurait été fait avant Covid, avec, tu sais, plein de gens, puis plein de monde autour de moi. si ça aurait été vraiment, tu sais, la même énergie, le même vibe. Mais là, je sais que, OK, c'est un moment, comme tu dis tantôt, que tu vis pour moi. C'est sûr, ça sera retransmis, tu sais, directement en live. Mais au moins, je sais que je serai chez moi.
Extraordinaire.
Il y aura vraiment comme une coiffeuse qui va être là. Puis je pense que c'est... Toutes les ingrédients sont mis vraiment en place pour que vraiment cette expérience se fasse le plus smooth possible, si je peux dire comme ça. Donc, donc comme on dit toujours, dans chaque côté négatif, il y a un côté positif. Donc, au COVID, ça permet de le vivre chez moi à la maison. Donc, oui, puis je pense qu'après, j'aurai un petit moment pour moi. Il y aura une amie à moi qui va également, une amie photographe qui a décidé de venir également parce qu'elle a vraiment aimé la cause et le fait que j'ai accepté de faire partie des audacieuses. Elle me photographie plusieurs fois, elle était comme, Alicia, ça serait un honneur pour moi, je serais vraiment très content de venir capturer ce moment vraiment et d'avoir une photo, une version avant, puis vraiment avoir le premier regard après que vraiment tout s'est terminé. Donc, c'est sûr qu'elle va essayer de prendre des photos pour immortaliser ce moment parce qu'elle était comme, tu dois avoir des belles photos, puis ces photos-là pour te rappeler que comme tu l'as faite, puis elle était comme, je veux vraiment marquer ce moment-là. Puis j'étais comme, oh my God, that's so sweet, merci. Puis j'étais comme, wow, c'est comme, ouais, je serai là. Donc vraiment, shout out à elle. Vraiment, je sais que j'ai beaucoup de soutien de ma cousine, de ma fille. Puis vraiment des amis qui sont là, qui ont fait des dons, puis qui ont hâte, puis qui sont contents pour moi. Donc voilà, donc tout est mis en place. Là, la coiffeuse sera là, puis c'est juste attendre le go, hein, parce que là, on va passer par groupe de 5, donc moi, je serai dans le deuxième groupe. Puis à ce moment-là, bon, je pense que c'est ça, dimanche après-midi, c'est là où ça se passe, donc...
C'est extraordinaire. Yeah. C'est extraordinaire. Ton histoire est extraordinaire, Alicia. C'est grandiose.
Oh my God, l'entend de Jay du Temple.
You do amazing.
You do amazing, sweetie.
Ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer.
Merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir accepté dans ton noble. C'est magnifique en passant.
C'est le studio SF, c'est les shout-out au podcast Sans Filtre, PH Quentin, Doom Plante, grâce à eux. Et bravo, notre bon Nick. Grâce à qui tout ça est en ligne. Donc, c'est tous eux, je leur dois tout ça. Merci de ton partage. Merci de ta patience. Et
merci à toi encore.
Bon succès. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Puis, j'espère qu'on aura la chance de se recroiser plus tôt que tard.
Ouais. C'est sûr, après tout ce qui se passe. Ouais. C'est sûr que j'ai eu le temps d'écouter plusieurs de tes podcasts avant d'arriver ici. Puis j'étais comme, oh, c'est un prétexte que tu fais pour voir les
choses. Exact.
Et j'étais comme, that's amazing. Donc, il faut trouver tous les prétextes tout en respectant vraiment tous les cadres sanitaires. Voilà. Donc, oui.
Où est-ce que les gens peuvent te suivre?
Alors, sur mes différents réseaux, les différentes plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, c'est tout Alicia Kazobinka. Donc, Alicia Kazobinka. C'est que le nom de famille est un peu plus compliqué, mais ça se fait.
T'es aussi porte-parole. Tu l'es plus.
Non.
Je suis désolé, Colin. Je suis complètement désolé. Hey, tu vois, c'était presque parfait comme podcast. Et là,
non,
j'ai fait
non.
La première bévue.
Non, c'est correct. C'est sûr que là, maintenant, je suis vraiment plus indépendante. Je ne vais pas dire indépendante, mais je continue à faire vraiment de la sensibilisation dans mes conférences et tout. Mon militantisme est à tous les jours, mais vraiment à titre personnel.
Merveilleux. Quand même un shout-out au festival.
Ouais.
Le nom du festival, rappelle-moi.
Massimati.
Voilà. Mm-hmm. Donc, un festival de cinéma pour la communauté LGBTQ+ noire. Donc, longue vie à toi, Alicia.
Merci.
Je vais penser à toi très fort dimanche.
Oh.
Je vais essayer d'observer ça.
Super.
Et on va mettre le lien pour les dons en dessous. Sinon, c'est sur le site de l'URCAN ou les audacieuses, pardon. Donc, je t'embrasse à distance. Mm. Merci beaucoup.
Thank you so much. Bonne journée à toi.
Toi aussi.